Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez l'équipée sauvage, l'ultime semaine. Toute la saison, nos journalistes sont affrontés au service de votre culture. J'ai toujours dans le respect et l'écoute de l'autre.
Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré ?
Je vais te dresser, moi, bamboulin !
Gueule, salope !
Tout à l'heure, l'un d'entre eux sera élu chroniqueur du jour, mais vendredi, l'un d'entre eux sera sacré chroniqueur de l'année. Pour fêter cette dernière semaine, il nous fallait la crème de la crème des plus formidables invités possibles. Avec Eva, on a tout de suite pensé
Brad Pitt et Woody Allen.
Ça a failli se faire, mais finalement, c'est Mickaël et Leonardo Ducré qui sont avec nous cet après-midi.
C'est pas mal quand même.
Bon, c'est même mieux, on peut le dire. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'ils sont les Brad Pitt et Woody Allen français. Bonjour messieurs.
Mickaël Allen.
Mickaël Allen.
Oui, mais c'est parce qu'ils mangent beaucoup d'oignons.
Divorce Club, c'est l'Arlésienne du cinéma français. Film encensé au Festival de l'Alpe d'Huez. Un film dont on parle depuis des mois, qui devait sortir en mars dernier. On va enfin pouvoir le découvrir dans quelques jours, le 14 juillet. Alors déjà que nous, on n'en peut plus. J'imagine pas l'état de nervosité dans lequel vous êtes, Mickaël Youn, réalisateur de ce film.
Oui, c'est vrai que là, ça fait un peu long pour accoucher. Hein. Ça fait plus de 6 mois. On aimerait bien qu'il sorte.
On voit la tête, madame.
Avec Charlot, on a l'impression que sur ce film, on est en promo depuis 2016.
C'est la plus longue promo de l'histoire du cinéma.
Je ne sais même plus qui a joué avec nous. Qui était dans le film?
On a même plus l'âge des personnages, c'est pour vous dire.
Alors, mais si on va parler de cette comédie extrêmement réussie, grâce notamment à la performance du formidable, de l'épatant, de l'invraisemblablement doué Arnaud Ducré, pourquoi cette Merci. Accumulation de superlatifs? Eh bien, dans le métier, on appelle ça un renvoi d'ascenseur, rapport aux propos d'Arnaud la dernière fois.
Vous savez que j'adore votre émission, je vous écoute tout le temps.
Et bien voilà, on va donc parler de
Divorce Club. J'avais une tête de déprimé, mec. Enfin, j'avais une voix de déprimé.
Ouais, c'était le confinement. Ouais. Oh la vache, c'était...
On j'adore était... votre émission, je vous écoute tout le temps, ça me met vraiment de bonne humeur.
A priori, il n'est plus là.
On va parler, les amis, de Divorce Club. Mais d'abord, je vous présente, c'est la tradition, nos deux premiers prétendants au titre de chroniqueur du jour. Deux journalistes qui forment à leur dépens un savoureux tandem comique. Un goût pour la rigolade, Camille Mbida, notre expert innovation, cultive même dans la sphère intime ou dans le secret de la chambre conjugale. Il s'amuse à surprendre sa femme avec de petits spectacles rieurs.
Par exemple, le faire passer entre les jambes de quelqu'un, attraper des cerceaux, faire des petites pitreries.
Ah, on sait s'amuser chez les Mbida. Hein. Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour. Vous voulez dire bonjour à votre femme ou...
Elle vous écoute, votre femme, ou elle a abandonné?
Je crois que je lui ai interdit d'écouter l'émission.
Oui, vous avez bien fait. Avec quelle innovation allez-vous nous surprendre aujourd'hui, Anissé?
Bah, je crois que dans le film, Mickaël Youn, vous faites croire que vous êtes divorcé, de fameux Divorce Club.
Oui.
Sauf que ça marche pas très bien.
Je crois que ma femme est morte.
Oui, c'est pire, c'est pire. Voilà,
et ça marche pas très bien. Et bien, moi, je vais vous parler d'un cabinet de design qui, lui, a réussi à faire croire qu'il a recruté un génie. Et tout le monde s'est arraché ce fameux génie, sauf que ce génie n'existait pas.
C'était quoi,
je vous allais savoir, est-ce que c'est un éléphant, est-ce que c'est un lémurien comme dans le film? Je vous raconte tout ça tout à l'heure.
De même que sans Laurel, Hardy n'est rien, sans Axel, Anissé n'est pas grand-chose non plus, ces deux-là sont vraiment indissociables. À l'un, les nouvelles technologiques, à l'autre, l'économie. Voici donc Axel de Tarlé, un journaliste économique certes, mais un homme avant tout. Un homme avec ses besoins physiologiques. Comme on a pu le constater mercredi dernier lorsqu'Ève Roger nous expliquait que dans le couple, lorsque l'homme faisait le ménage, la femme était plus disposée à faire l'amour.
Si vous prenez l'aspirateur, si vous faites la vaisselle, eh ben je peux vous dire que la femme, tout d'un coup...
Visiblement, Axel prend souvent l'aspirateur.
Je prends des notes, surtout. Ce soir, ça va être le grand nettoyage de printemps à la maison.
Bonjour Axel. Alors, ce grand ménage...
Ah bah, écoutez...
Vous n'avez pas été déçu?
Il a porté ses fruits.
On embrasse votre épouse aussi. Ah, vous tentez un comeback aujourd'hui, vous êtes un peu loin encore au classement général. Hein. Il faut tout donner aujourd'hui, Axel.
D'autant que là, je vais vous dire, j'appréhende un peu le côté décalé de ma chronique, puisque je vais vous parler d'une escroquerie financière, mais c'est assez compliqué, ça se passe...
Dites tout de suite que nos invités sont
cons. Je vais vous dire, moi-même, j'ai pas très bien compris.
C'est ça.
Quel était le ressort de l'escroquerie? Je vais quand même essayer de maquiller tout ça.
C'est le sujet le plus mal vendu de l'histoire de cette émission.
Merci.
Merci Axel. Le programme est donné. L'équipe est sauvage peut démarrer.
Et moi, vous me dites pas bonjour. Non, mais c'est pas très grave.
J'ai oublié.
Elle a vendu du pain aux Allemands. C'est ça, quoi.
Deux fois, ça sera mais la non. deuxième fois dans la saison.
Eva, je me suis laissée emporter par l'ambiance. Excusez-moi, ouais. Eva, évidemment, Eva Rock, ma muse, ma fée, est avec nous tout l'après-midi et vous nous parlez
Adieu.
Des programmes télé qu'on regarde ce
ouais,
soir.
Peut-être,
évidemment, peut-être,
allez.
Si vous me pardonnez
ouais.
en
oh, peut-être.
C'est donc, malgré tout, un tandem attachant et talentueux qui nous accompagne cet après-midi, Car j'ai dit ce que je pensais d'Arnaud Ducret à l'affiche de Divorce Club le 14 juillet, mais que dire de Michael Youn, le réalisateur de cette comédie, un virtuose de l'humour. Pour moi, c'est bien simple, c'est le Orson Welles du LOL, le Hitchcock du PTDR, quelqu'un, en tout cas, qui a un goût très sûr, puisqu'il déclarait la dernière fois à ce micro.
Moi, je ris beaucoup. Hein. Si toutes les émissions pouvaient être comme ça.
Ah, j'adore nos invités aujourd'hui.
Alors, lâche-cul. Ouais, mais j'étais déprimé, moi, je pensais, je sais pas ce que je disais.
Alors, moi, j'étais content.
Divorce Club, tout le monde en parle depuis longtemps. C'est votre meilleur film, Michael Youn. C'est celui dont vous êtes le plus fier.
Si c'est vous qui le dites.
Non, c'est pas moi qui le dis.
Non, moi je suis content à chaque fois. Enfin, en tout cas, les films que je réalise, je suis content à chaque fois que je les sors, forcément.
Mais évidemment, mais celui-là, il a peut-être un petit truc en plus. Là, on va quand même. Quel nombre d'entrées vous ferait plaisir? Je suis sûr que quand vous vous endormez le soir, vous y pensez, vous
déjà
pensez.
Déjà, si peu de pas y avoir de deuxième vague tout de suite.
Voilà.
Non, mais je vais rester là-dedans.
Ceci dit, il sort quand même. Ça va être, c'est assez incroyable parce que c'est vrai qu'on devait sortir en mars. Il y a la pandémie. Bon, voilà. Donc tout est décalé. Est-ce que tout d'un coup, les planètes vont s'aligner pour ce film, pour nous, pour nos carrières? Bon, voilà, c'est enfin la mienne. C'est celle de Michael, elle est déjà faite. Hein, il peut rien faire. Lui, il est terminé, lui. Mais voilà, non, c'est vrai que ça serait peut-être. Ça se trouve peut-être pandémie pour le film, peut-être.
Non, dis pas ça.
Non,
on aurait vraiment préféré sortir le 25 mars, hein, ouais. Ça, c'est sûr.
Oui. Cela dit, ce qui tombe plutôt pas mal, c'est que les statistiques des divorces sont en augmentation à la sortie du confinement. Là, on est pile dans le thème. Hein,
Sent qu'il y a eu deux mois un peu compliqués pour certains. Et d'aller voir une comédie qui vous parle de ce que vous avez vécu chez vous, peut-être que c'est pas mal.
on donne l'histoire pour les gens qui n'auraient pas suivi la promo de ce film qui dure depuis pendant 6 mois. Ouais. Vous interprétez Ben, vous êtes un agent immobilier, vous êtes fou amoureux de votre femme. Et alors que vous apprêtez à fêter les 5 ans de cette relation, vous découvrez publiquement, de façon assez humiliante.
Horrible, très humiliante.
Qu'elle vous trompe. Ouais. Est-ce que tout ça est inspiré de faits réels, de choses vues, de choses vécues peut-être?
Il y a des choses vécues, effectivement. Moi, j'ai découvert, par exemple, en couverture d'un magazine People, que j'étais pas le seul homme de ma femme. Donc c'est vrai que c'est des choses qui vous nourrissent après quand vous avez envie d'écrire une comédie. Et en l'occurrence, le personnage d'Arnaud, après, va croiser son ami d'enfance qui lui dit, parce que donc Arnaud va devoir divorcer. Et son ami lui dit, mais tu vas voir, le divorce, c'est la plus belle chose au monde, c'est la plus belle chose qui pouvait t'arriver. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Voilà.
C'est ce que vous aurez voulu vivre quand vous avez vécu votre.
Oui, non, mais moi, souvent,
vous avez aimé rencontrer François-Xavier de Maison.
Non, mais
à ce moment-là.
Souvent, je suis le pote qui téléphone à ses copains quand ils se font larguer et qui les emmène jusqu'au tréfonds de la nuit. Hein. Je vous rassure, je suis un peu le François-Xavier de Maison, mes amis. Ouais.
Arnaud Ducret et Michael Youn sont avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Europe 1. Vous en avez beaucoup entendu parler, mais comme moi, vous n'y avez rien compris. Axel de Tarlé nous explique l'affaire Wirecard, le scandale financier qui secoue l'Allemagne. Un sujet qui excitera peut-être un peu moins.
Ich bin neide, Volksleide, Ökonomie.
Oh, c'est super chelou la chronique.
Effectivement, amis allemands qui nous écoutez, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Deux stars pour le prix d'une, approchez, Michael Youn et Arnaud Ducret sont nos équipiers sauvages cet après-midi pour fêter la sortie prochaine de ce qui sera la comédie de l'été. Je vous l'annonce, Divorce Club le 14 juillet. Est-ce que c'est un film qui va pousser les gens au divorce?
Non, mais en tout cas.
Si, parce qu'avec les fêtes qu'il y a dans cette soirée.
Non, ça franchement. Les gens vont avoir envie de faire la fête. C'est-à-dire que quand tu sors du film, dis, j'aimerais bien me faire un petit gin tonic.
Non, mais on se rend compte à la fin du film que l'amour triomphe toujours, quoi qu'il
arrive. Toujours avec vous, Michael.
Maintenant, on le sait, hein, la première cause de divorce, c'est le mariage. Donc. Ouais. En tout cas, ça va peut-être pas pousser au divorce, mais ça va pas pousser au mariage.
Alors, les amis, que de gens primés autour de cette table cet après-midi. Vous, au Festival de l'Alpe d'Huez, Grand Prix, on l'a dit. Lui, à la cérémonie des Dauphins d'Or de l'économie 2003. Prestigieuse cérémonie récompensant le meilleur journaliste éco de l'année.
C'est un titre prestigieux remis par l'Université de
Dauphins d'Or. Oui, alors 2003,
qui m'a été remis par Valéry Giscard d'Estaing.
Ah ouais, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai eu le Dauphin Bleu, mais ça n'avait rien à voir. C'est Thomas Rhineland, en revanche.
Les amis, 2003, c'est un peu loin, mais je peux vous assurer que le Dauphin d'Or n'a rien perdu de sa vigueur. L'atout numéro 1 d'Axel de Tarlé, je dirais, sa précision.
Et ce que je voulais vous montrer là, electricitymap.org, c'est un site qui en temps réel vous montre les émissions de CO2 dans les différents pays européens
convoquez vos neurones à une grande réunion et allons-y sur le thème du jour. Tout, vous saurez tout sur Wirecard, ce scandale financier auquel on comprend rien.
Alors voilà, c'est une chronique pas facile, hein, je dois avouer. Wirecard, c'est une start-up, un peu comme Visa qui fait la
Visa, c'est une start-up.
Non, mais ils font un
peu
la même
chose.
Je sais
pas, je vais quand même vous reprendre parce que Defender peut-être, mais enfin bon.
Ils vont être contents, Microsoft, start-up.
Ils font l'interface entre le commerçant et le client. Et donc, c'est une start-up allemande et tout le monde trouvait ça fantastique parce qu'en Allemagne, il y a assez peu d'établissements financiers.
Ah bon ?
Et ça s'est mis à gagner de l'argent et ça a été, c'est rentré. C'était une petite boîte qui est rentrée dans l'équivalent du CAC 40 en Allemagne, ça s'appelle le DAX. Donc, c'est l'indice des grandes valeurs allemandes. Voilà, donc il s'est retrouvé, cette petite start-up qui s'appelle Wirecard, aux côtés de Siemens, de BASF, de Volkswagen. Enfin, c'était la consécration. Et on ne comprenait pas tellement, vous voyez, un peu comme moi, pourquoi elle gagnait autant d'argent. Et en fait, on a découvert le poteau rose, elle ne gagnait pas l'argent, elle faisait croire qu'elle gagnait de l'argent. Donc,
bah, comment c'est possible ça ?
Alors, si, bah voilà, c'est ça la question. Le scandale, c'est pas tant que cette start-up ait réussi à berner tout le monde, des escrocs, il y en a partout. Le scandale.
Ça s'est bien passé pour le savoir.
C'est que. Le scandale, c'est que les Allemands n'y aient vu que du feu. Et que cette entreprise, ces petits escrocs, soient arrivés à entrer dans l'équivalent du CAC 40. Enfin, vous imaginez.
On s'est bien fait baiser.
Oui. Et, mais vous ne croyez pas si bien dire. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui.
Développez ce point-là.
On demande des comptes aux autorités, notamment aux autorités financières. Mais enfin, vous n'êtes pas rendu compte. D'autant que. Alors, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille. Le type, il avait bossé avant dans le porno. Enfin, bref.
Ah, copine, je suis le plombier. Je viens de déglinguer.
Il y a des très grands entrepreneurs français qui
ont
commencé.
Oui, c'est vrai. C'est, bien pour sûr. Ça, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'ils avaient.
Jacques
dit,
Daniel.
Ils avaient, voilà, exactement. Donc.
Tu sais quoi. Jacques Daniel, il a commencé.
Bien, bah, bien sûr,
bien sûr.
Mais c'est pour ça qu'ils avaient fait confiance à cet entrepreneur. Donc,
Xavier Michel.
Et donc,
merci Xavier Michel.
ne vous démontez pas, ouais, si j'ose dire. Si j'ose dire, Axel, continuez.
Et donc, les autorités de contrôle sont d'autant plus critiquées qu'à un moment, il y avait des enquêteurs du Financial Times qui ont dit, mais attendez, ça tourne pas rond, en fait, cette boîte, elle gagne pas d'argent.
Non. Attendez, ça ne tourne pas rond.
Non, c'est mieux, non, c'est Financial Times. Ça ne tourne pas rond. Elle a... Et qu'ont fait les enquêteurs allemands? Au lieu d'enquêter sur la boîte qui ne tourne
pas,
ils ont enquêté sur les journalistes du Financial Times en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces types qui se font manipuler et qui essayent de nuire à la réputation de cette start-up extraordinaire, etc. » Et donc aujourd'hui, bah, à la fois les auditeurs qui ont validé les comptes, les autorités de contrôle, et donc c'est toute la... Et alors, pour les Allemands, ils sont bons dans tout, les Allemands, en foot, en chimie, etc. Mais il n'y a pas de grande banque allemande. Il n'y a pas de grande banque allemande. Et ils étaient très fiers. Ils avaient dit, eh ben voilà, ça y est, on a enfin notre vedette dans la finance.
Ah,
et,
dommage,
et on s'aperçoit que c'était une escroquerie.
Mais là, ils ont reconnu que c'était
ah,
un,
oui,
une arnaque.
Là, le ménage, je vous dis, c'est plus sur les autorités de contrôle. Et tous ceux qui n'ont rien vu qui ont catapulté cette entreprise au sein du DAX, donc l'indice des valeurs allemandes, c'est surtout eux qui sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone.
Mais est-ce qu'on peut voir les films porno du mec qui était. Sur moi, le reste, je m'en fous, hein, mais sinon, ils sont sortis où les.
Ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Merci, Axel.
Europe 1.
Est-ce que j'aime Arnaud Ducret ?
Oui.
Est-ce que je le présenterai à ma sœur ?
Non.
Pour draguer les filles, quand j'étais en camping avec mes parents, on faisait un petit feu, là, le soir, et moi, j'avais. Comment il fait ?
Viens voir.
Le Orson Welles comique et son acolyte, la boîte à bitumen, restent avec nous.
C'est horrible.
Mais oui, en français, on dit une boîte à bite.
Exactement, c'est une traduction littérale.
Ben oui.
On les retrouve juste après, justement, Michael Youn. Il en faut peu pour être heureux sur Europe 1. Il en faut toujours peu pour être heureux sur Europe 1, surtout avec Michael Youn.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
C'est un binôme de comédiens qu'on reçoit cet après-midi dans l'équipe est sauvage, dont un, Michael Youn, souffre d'un syndrome, le syndrome Scottie Pippen. Du nom du génial ailier qui jouait au Chicago Bulls en même temps, et donc dans l'ombre de Michael Jordan, Michael Youn, c'est pareil, et à chaque fois qu'il vient, il commet l'erreur de venir avec quelqu'un d'encore plus drôle que lui, comme Sylvie Testu la dernière fois qu'il nous avait imité Eddie Mitchell.
Ils ont eu du bol que je leur fasse pas Brassens, hein.
Voilà Sylvie Testu hier, Arnaud Ducret aujourd'hui, qui va peut-être nous faire qui sait Brassens version beatbox. Du coup, Michael, vous faites voler la vedette à tous les coups. Rappelons que vous êtes, il y a une hiérarchie dans l'humour, vous êtes le réalisateur de Divorce Club. Arnaud ne fait que jouer dedans, oui. Humblement, sous votre direction hitchcockienne. Divorce Club sort le 14 juillet. Est-ce que c'est vrai que les hommes, ou les femmes d'ailleurs, tout juste divorcés, font peur aux autres, à leurs amis ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand vous venez de divorcer... En général, les nanas de vos potes veulent pas que vous fréquentiez vos potes.
À juste titre.
Parce que vous les emmenez en général dans les boîtes à cul. Des boîtes de striptease.
D'ailleurs, le personnage le dit. Il dit ouais, je vais dans les boîtes de striptease, mais avec des mecs mariés.
Oui. Nuance.
Est-ce que vous savez si peut-être vous avez des retours comme vous faites la promo depuis longtemps. Est-ce que ça existe un divorce club? En tout cas, ce principe.
Non, enfin, non, non. En tout cas, on a fait, on a un peu fait la tournée.
Ça
va
pas
de...
les clubs échangistes. Ça compte pas, ça compte pas.
On a fait la tournée de toutes les popotes en France. On a présenté le film un petit peu partout et à chaque fois, on nous a dit c'est dommage que ça n'existe pas. Donc peut-être qu'on pourrait faire une start-up.
Maquiller les comptes. Je suis de retour. J'ai fermé la barrette. J'ai fini de faire l'amour et j'ai ouvert une start-up.
Parce qu'évidemment, le divorce club est mixte. Hein. C'est tout l'intérêt de sinon, la question.
Ça n'a pas d'intérêt. Arnaud, votre personnage Ben se fait un peu du mal en allant sur les réseaux sociaux pour un peu espionner son ex. Ouais. Parce que dans la vie, dans la vraie vie, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Vous seriez du genre à vous désabonner du compte ou à suivre ?
Je ne fais pas ça, moi. Je déteste ça. Je connais,
vous voilà, coupez les ponts.
D'aller voir. Tu sais que tu fais trop de mal.
Vous avez appuyé pile là où ça fait
mal. Non. Non, parce que.
Livrez-vous, je suis Mireille du mal.
Non, mais c'est, je trouve que c'est justement, tu te fais hyper mal avec les réseaux sociaux, tu vois ton ex en teuf ou des trucs comme ça, tu regardes,
c'est
terrible.
Tu vois ton ex avec d'autres mecs, tu vois comment déjà il est gaulé, c'est pas possible.
Et vous, Mickaël, vous regardez ou pas?
Oui, parce que vous.
Moi, je suis un peu plus friable que monsieur Ducré. Donc,
t'as fait sortir qui a fait mal.
Mais moi, carrément, je me désabonne. J'efface le numéro de téléphone de ma liste, je fais des trucs d'ado, quoi. Non, c'est bon, j'aurai plus ton numéro, comme ça je peux pas te déranger à 4h du matin en disant je peux pas dire chez toi. Salut, tu fais quoi? Il est 4h, je dors. Ah bon? Donc je passe pas. Ah non, tu passes pas.
C'est la voix de 4h du matin que Arnaud a dans le film.
Ouais, la voix un peu comme ça. Elle se croise trop envie de baiser. Parce que voilà, il se passe chez toi, mais c'est ça, j'ai trop envie de baiser.
C'est le sous-titre.
Je ne peux pas, je dois te baiser, je le fais. C'est maman, donc tu raccroches, tu t'es trompé de numéro. Oh, excuse-moi, maman. Excuse-moi, je t'aime, maman.
Vous le faites hyper bien, le mec bourré.
C'était ça, d'ailleurs, l'imitation de Benjamin Griveaux.
Dans le film, vous faites super bien le mec bourré. Est-ce que là, on voit où vous le faites, vous êtes agent, là, on peut le dire, on est sur Europe 1.
Ah, bah ça, là, je suis arraché.
Non. Mais est-ce que dans le film, vous avez bu un petit peu, pas du tout? Quand vous jouez le mec bourré, vous êtes.
Et non, mais la scène dure 20 minutes. Donc, 20 minutes de scène bourrée, ça veut dire à peu près 7 ou 8 jours de tournage. Il a déjà fait 7 ou 8 jours bourré, mais c'était en vacances.
Oui, voilà, c'est là que tu penses au film porno. Tu dis quoi? Ça fait 7 jours que je suis sur le truc, là. Je n'en peux plus.
Non, c'est une grande. C'est une très très grande performance de la part d'Arnaud. Moi-même, j'étais et Dieu sait qu'il en faut beaucoup pour me surprendre en comédie. Il m'a tordu, quoi. Il m'a scié. J'étais client, c'était très difficile d'arrêter.
On a bien rigolé.
Mais
alors, justement, vous avez rigolé en dehors des scènes, parce qu'on dit souvent pour faire une bonne comédie, il faut être en fait hyper sérieux en amont. Donc
dans la prise, on était. Bah moi, le plus sérieux possible. Mais moi, j'avais beaucoup de chance parce que quand je fais le mec bourré, je suis en bout de table et j'ai mes deux camarades, Charlotte Gabrice formidable et Caroline Anglade, pareil, toutes les deux sont extraordinaires. On s'est éclaté et j'ai toute l'équipe et j'ai Mika qui est derrière et je vois Mika qui.
on travaille sérieusement, mais ça nous empêche pas de prendre du plaisir et d'apprécier la performance. Dans la prise, le comédien livre en face de nous.
Dans la prise, ouais.
Divorce Club sort enfin le 14 juillet.
On espère.
En tout cas, on est content depuis le temps qu'il devait sortir, de ne pas sortir en même temps que Le Père Noël est une ordure, parce qu'on était sur le même. Et en fait.
Et oui, parce qu'on a commencé en 1983.
C'est vrai. Arnaud Ducré et Mickaël Youn sont avec nous jusqu'à 18h. Europe 1. La volonté de divorcer surgit généralement après une tromperie, une déception, une engueulade. Chez les Mbida, pourtant, le scénario est peu commun. Madame a décidé de quitter Anissé le jour où elle a découvert comment il chantait.
Go on and on and on. Oui.
Alors en même temps, on ne peut pas vraiment lui jeter la pierre. Hein. Heureusement pour nous, Anissé est beaucoup plus douée en nouvelles technologies. Aujourd'hui, il nous raconte une arnaque incroyable qui en dit long sur les derniers progrès de l'intelligence artificielle.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipé sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
La monogamie est-elle le seul horizon possible? Plus dérangeant encore, osons la question. La monogamie est-elle tenable?
Ça va pas, non?
Non, mais ne nous précipitons pas pour donner. On pose la question. Mickaël Youn et Arnaud Ducré passent l'après-midi avec nous pour évoquer la sortie le 14 juillet prochain de Divorce Club. Alors, Mickaël, vous avez reçu 2 prix au Festival de l'Alpe d'Huez. Hein.
Oui.
Est-ce que ça va changer le regard
la face du monde.
des gens dans la profession sur. Est-ce que vous allez passer au statut de grand réalisateur de comédie? Vous le sentez?
Enfin, si je peux me permettre, puisque j'étais public de Fat Fatal par exemple, déjà Fatal il avait tapé fort quoi. J'ai beaucoup aimé ce film. D'ailleurs, quand on m'a proposé ce film Divorce Club et que je savais que c'était Mika, que j'appréciais, que j'aimais beaucoup déjà artistiquement, j'ai pensé tout de suite à Fatal. Je me suis dit voilà, tu sens que le mec, il faut que ça travaille beaucoup pour la comédie et tout ça quoi.
En fait, je m'en fiche un peu.
Complètement.
Voilà. M'en fiche un peu. L'important, moi, c'est que je fasse ce que j'ai envie de faire.
Mais alors, justement,
ce qui se passe dans la tête des gens ou des journalistes, je m'en fiche.
Justement, c'est la question qu'on se pose quand on est un peu extérieur au milieu du cinéma. On a du mal à comprendre. Il y a des gens qui ont la carte, d'autres pas. Ouais, il y en a qui font des films facilement, d'autres qui nous disent. J'ai reçu des gens très connus à ce micro qui me disent c'est compliqué chaque film pour le financer.
Surtout les comédies.
Et je voulais savoir, vous, Michael Youn, quand vous vous dites j'ai une idée de film, clac. Tout le monde arrive pour
non,
financer
non,
le film,
non,
ça se passe comment ?
C'est compliqué, le cinéma français, c'est là qu'on plombe l'ambiance. Le cinéma français est en pleine mutation, donc on travaille dans un métier en mutation, et vous aussi d'ailleurs dans les médias, c'est pas évident. Il y a un peu une crise des financements, donc il faut des projets qui sont sûrs, des projets qui sont pas trop chers. C'est compliqué pour tout le monde.
Pour monter ce film, on a tous fait, à l'échelle du cinéma, on a tous fait des efforts. On a tous fallu faire des efforts financiers, bien sûr, parce que sinon...
Sans dévoiler les montants, mais c'est vrai qu'Arnaud a été négocié par son agent à un certain tarif et que ça n'arrive jamais, le producteur est revenu et a dit est-ce que vous pouvez faire un effort parce qu'on n'y arrive pas quoi.
Donc tout le monde a fait un effort.
Parce que
l'histoire est super, parce qu'on veut
qualité du scénario.
Les films se passent, on n'est pas débiles.
Les fêtes ont coûté trop cher, évidemment,
ouais,
c'est quand
ça,
vous
avez vu. Ça, c'est le génie de Michael. Le plus beau compliment qu'on nous a fait sur ce film, c'est un producteur qui est arrivé et qui m'a dit il y en a au moins pour 12 millions à l'écran. Et non, il y en a pour 6 millions 7. C'est déjà beaucoup d'argent.
Il faut dire que c'est votre villa qu'on voit dans le film, c'est chez vous.
Je prends quand même un malin plaisir, un malin talent à mettre tout l'argent sur l'écran, comme on dit.
Michael, il aime. On sait que si tu fais un film avec Michael, il aime les gags, il aime la belle image, il aime les gags un peu, j'ai envie de dire l'américaine, mais voilà, visuel. Donc ça te demande de l'argent, quoi. Donc il faut voilà. Mais après il s'adapte aussi. Donc et c'est vrai que c'est très agréable de se dire que le film en fait est moins cher qu'on se pensait, avec une image magnifique et plein de trucs très drôles dans le film.
Mais oui, il a coûté 67 000 euros. C'est vraiment étonnant pour un film qui en voit autant à l'écran. C'est vraiment fort. Est-ce que dans les avant-premières, les gens viennent vous voir et vous disent moi aussi ma meuf est partie avec mon cousin ou il s'est passé quelque chose.
Non, dans le Nord, on a fait très peu de promo. On en a pas fait beaucoup. Mais
je sors. Personne, je sors.
On n'a pas vu de gens. T'as eu des gens qui disaient.
Mais non, mais on leur faisait lever la main dès qu'on était en tournée province. On fait qui est séparé, qui est divorcé, qui a été victime de l'amour. Il y a quasiment toute la salle qui lève la main. On fait voilà, ce film vous est dédicacé.
Lui, sa femme ne risque pas de le tromper avec qui que ce soit. D'ailleurs, et pour cause. Quand on a tiré le gros lot, à savoir la musculature de Jean-Claude Van Damme et le cerveau de Bill Gates, et attention, pas l'inverse, on garde précieusement ce qu'on a. Anissa Mbida, notre expert innovation, est vraiment ce qu'on appelle un beau parti. En plus, cerise sur le gâteau, il a l'art d'amuser sa partenaire au moment fatidique en lui disant par exemple avec un clin d'œil malicieux
« Ouvrez la cage aux oiseaux !»
Avant d'ouvrir la cage aux oiseaux, Anissa, merci quand même de nous livrer votre chronique du jour. On parle d'une intelligence artificielle si perfectionnée qu'elle a réussi une formidable arnaque.
Oui, c'est le genre d'arnaque qu'on aimerait tous réaliser un jour, surtout quand on est prestataire de service. Alors je vous raconte l'histoire.
Alors
c'est pas à vous que je vais raconter que l'arnaque, c'est quand même. On a quand même droit à des arnaques tous les jours ici dans cette émission.
Oui, hein, c'est
pas toujours avec des prestataires de service.
Parfois avec des journalistes qui ont une carte de presse.
Cette histoire se passe en Russie. C'était il y a un peu plus d'un an. Il y a un cabinet de design qui s'appelle Artemy Lebedev et il recrute un créatif, son nom c'est Nikolai Ironov, donc un nom classique, cet artiste justement, on lui fait une page de profil sur le site, on peut voir son portfolio avec des différentes œuvres qu'il a créées, c'est formidable, sauf que c'est un artiste qui a un petit peu des problèmes pour se déplacer, il a des problèmes de mobilité, donc il reste chez lui,
personne ne le voit
au bureau, mais comme on voit son portfolio, tout le monde peut commander des œuvres, tous les clients peuvent s'intéresser à son travail. Et pendant un an, il va créer des t-shirts, des logos, des étiquettes, des bannières de sites web. Alors, je vous ai amené un peu des exemples de son travail.
Est-ce qu'il a bossé pour Europe 1 ?
Regardez. Oui. Et il s'est trouvé que ce designer qui a fait énormément de choses, des t-shirts,
c'est
etc.
Pas,
et
ben, oui, en fait,
c'est pas ouf. Hein.
C'est une intelligence artificielle qui est derrière ce fameux Nikolai. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez de ces.
Il y a des trucs pas mal.
Michael trouve ça pourri. Moi, je trouve que ça fait assez.
Non, c'est pas ouf. C'est pas.
On a vu des designers plus pourris, quoi.
Oui, hein, ça c'est clair.
Humain.
Ce qui est très très drôle, c'est que justement, quand on dit que c'est une intelligence artificielle qui a fait ces différentes œuvres, nous disons bah oui, finalement ça se voit, c'est pas terrible, c'est pas ouf, c'est pas très
j'aurais
créatif.
Pas dit ça.
C'est pas créatif. Mais mettez-vous à la place des gens à l'époque, Piet Mondrian, de Picasso, de Gustave Klimt.
Ah oui,
quand ils ont sorti leurs premières œuvres, qu'est-ce qu'on disait?
On disait, eh ben, un enfant de 5 ans peut le faire. Ouais. C'est ouais, pas... ouais. Et donc aujourd'hui, bah, quand une intelligence artificielle est capable de le faire, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'art finalement, ouais. C'est un peu la question qu'on peut se poser. L'autre question qu'on peut se poser, c'est sur le processus créatif.
Mais comment, oui, comment ça marche?
Parce que le processus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un système, une technique assez traditionnelle aujourd'hui en intelligence artificielle, qui s'appelle l'apprentissage profond. Donc on lui montre un peu
le
des œuvres, des logos, etc. Et il est capable de composer lui-même. Mais comme c'est une intelligence artificielle, comme c'est un algorithme, eh bien, il ne va pas s'inspirer d'autres humains. Ben il ne va pas s'inspirer de sa propre expérience. Il n'a pas d'angoisse de la page blanche. Et donc, il a des créations qui sont toujours parfaitement originales. Donc, c'est plutôt intéressant pour un créateur, parce qu'il y a toujours un truc. Bah oui, tiens, en fait, il s'est inspiré de bidule, il s'est inspiré de machin. Donc, ça pose énormément de questions, cette intelligence artificielle qui a réussi à berner tout le monde pendant un an. Alors, ce qui est intéressant, ils ont fait une création pour un YouTuber. Et le YouTuber n'était pas très content de la création. Il a même fait une vidéo YouTube en disant, dis donc, les créatifs de cette cabinet, ils ne sont pas très bons.
C'est comme ça
bons.
Qu'ils se sont fait griller ?
Non, non, pas du tout. Ah, c'est juste lui qui dit, bon, on a tous vu des designs qui n'étaient pas terribles, faits par des humains, donc ça n'a surpris personne. Mais personne ne s'est imaginé une seconde que ça pouvait être un ordinateur qui était derrière. Et aujourd'hui, donc, ça pose deux questions. Le processus créatif, est-ce qu'on pensait que c'était réservé à l'humain, cette idée de pouvoir créer quelque chose de complètement original ? Eh bien non, on vient de voir que c'est quelque chose qui arrive à bluffer tout le monde. Et aussi sur la notion d'art, quand on fait quelque chose de très original, parce que même si on n'aime pas, on peut quand même reconnaître que c'est hyper original. C'est des choses qu'on n'a pas vues, ce type de logo, cette façon d'agencer les formes, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Et donc, je pense qu'il va falloir s'y faire. Là, on parle d'art, on parle de design, mais ça pourrait être
dans
un auteur.
Attention, ouais. Attention à ce que vous allez dire. Hein. Ouais.
Mais attention, non, mais je suis à distance.
Et
de
justement,
point.
C'est là où je voulais en venir. C'est parce que maintenant, il y a une intelligence artificielle aussi qui fait des scénarios.
Non.
Qui est utilisée pour faire des scénarios.
Bah, bonjour, les dialogues.
Elle n'est pas encore réalisatrice parce que la direction des acteurs, elle ne sait pas encore faire. Mais faire des scénarios, ça se fait avec l'intelligence artificielle.
Les tentatives qu'ils ont faites avec les séries, ce n'était pas génial. Hein,
ah non, non, mais parce que c'était, ouais. C'était pas, on ne demandait pas de créer jusque de A à Z.
Non, mais là, il n'a pas tort. Hein. Ça va arriver, bien sûr.
Et donc, on va se poser la question sur notre rôle dans tout ça. Est-ce qu'on laisse faire ? Est-ce qu'on ne laisse pas faire ? Qu'est-ce qui va faire notre différence en tant qu'humain ? On pensait que c'était l'art et que c'était la création. Et bien, on se rend compte que maintenant, les ordinateurs sont tout à fait au point.
Vous avez plombé l'ambiance.
Mickaël, en tant que créateur, ça vous fait peur, ça, l'intelligence artificielle ?
Non, pas du tout.
Vous allez la défoncer tranquillement.
Non, mais je pense que c'est notre allié, la machine. C'est pas notre ennemi. En tout cas, moi,
travailleriez avec une intelligence artificielle sur un scénario, par exemple pour, je sais pas, le restructurer ou rendre plus fort certains tournants.
Je pense que oui, mais alors ça, c'est pas pour la création, mais en tout cas pour la structure.
Ouais.
Oui, je pense que bah, déjà il y a des logiciels qui font voilà, si t'as pas eu ton élément déclencheur avant la passe 18, bah, ça veut dire.
Ah, ça
que...
ça existe.
Bah, bien sûr, bien sûr.
Eh bien, nous vivons dans un joli monde. Que penserait Audiard de tout
les
ça
Terminator.
Les Terminator, les vieux cons.
Je suis un avec le Terminator, je suis le T-1000, tu vois. Ils vont venir.
T-1000.
L'intelligence artificielle.
Il me fait peur, Arnaud Ducré, quand il parle comme ça. Il est tellement puissant, je sens la puissance qui jaillit.
Et encore, il est habillé.
Et encore.
Mais je vais vous faire la voix masquée aussi.
Pour l'instant.
Bon, ça fait longtemps que je me prostitue. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens connus, j'ai eu beaucoup de stars, mais ça a été pour moi très difficile de me prostituer tout le temps.
Ah, c'est Patrick Sébastien, je l'ai reconnu.
Europe 1.
Elle est la clé de voûte de cette émission. Elle en est la rédactrice en chef, mais aussi l'âme. Hélas, certains journalistes ne témoignent pas à Eva Roque le respect qu'elle mérite. Elle a encore pu le constater vendredi lorsque Nicolas Caro a évoqué sa collaboration avec Pascal Clarke cet été.
Et je vais être avec Pascal Clarke cet été.
Ah, c'est bien.
Pourquoi tu as les chocottes ? Elle est pas sympa, Pascal
Clarke ? Si, mais elle m'impressionne, moi.
Moi, je t'impressionne pas ?
Bah, moins, quoi.
Venger cet affront, Eva, remettez les pendules à l'heure. Et quoi de mieux pour ça qu'un bon vieux quiz de Culture G face aux invités ? À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il y a des films dont on attend la sortie avec une impatience simulée.
Mon nom est Clitoris.
Par exemple. Et puis, il y a les films qu'on attend vraiment avec impatience. Divorce Club arrive en salle le 14 juillet. Yeah. Mickaël Youn et Arnaud Ducré sont avec nous. Cet après-midi, ils sont assez chauds. Arnaud Ducré, vous êtes sur une vague absolument incroyable. Alors, je sais que vous n'aimez pas le mot bankable. C'est vrai que moi non plus, d'ailleurs, j'aime pas ce mot. Mais
je préfère virement.
Mais sacrément tombé, vous êtes dans tous les bons films en plus.
Alors parlons des arnaques justement des prestataires de services dans le domaine de l'acting.
Bah, en tout cas,
il y a un alignement de planète là.
Bah, je lis des films, je lis des scénarios et quand voilà, j'y crois et quand je les vois à l'écran, bah, je me dis tiens, je me suis pas trompé. Pour l'instant, ça, je suis assez cohérent avec ce que je lis, donc ça va. Et c'est vrai qu'effectivement, celui-ci, Divorce Club, c'est comme dit mon agent, c'est pour mon personnage par exemple, c'est une vraie bande démo d'acteurs. C'est-à-dire qu'il m'arrive tellement de choses dans ce film à mon personnage.
Tellement d'émotions.
Ouais, Ben Catala qui est au fond du gouffre et qui va remonter pétillant. Voilà, c'était un réel plaisir en le lisant. Et alors là, en le voyant, j'étais très heureux de ce qu'avait fait Mickaël.
Eva.
Mickaël, vous aviez tout de suite pensé à Arnaud pour le rôle oh, de Ben ou pas?
Je sens dans ses yeux que non.
En fait, à la base, j'ai rencontré Arnaud pour l'autre personnage.
Celui qui joue par
François-Xavier. Le Limousin. Et en rendez-vous, très très vite avec Arnaud, ça a collé. Et je me suis dit qu'il était de taille pour faire ce rôle. Et donc, pendant le rendez-vous, je lui ai dit, bah non, finalement, en fait, je te file le premier rôle. Il est incroyablement doué. Il sait tout faire, Arnaud. En revanche, c'est clair qu'on ne l'a jamais vu aussi bon que dans Divorce Club. Je suis très fier d'être celui qui a ouvert la petite porte, quoi.
Bonjour, je suis celui qui vient ouvrir ta petite porte.
Tout ça. Très poétique. Alors, messieurs, le moment d'habitude est grave pour Eva Roque, puisque c'est d'ordinaire le moment où elle doit affronter l'invité sur un test de culture G. Sauf qu'aujourd'hui, comme vous êtes deux, le boomerang de la loose se retourne contre vous. Et vous allez jouer l'un contre l'autre.
Très bien, ça me fait des vacances.
L'occasion peut-être de briser une belle amitié juste avant la sortie d'un film. C'est l'heure du quiz. Mickaël Yeudardo Ducré, vous jouez donc l'un contre l'autre. Vous êtes obligé de demander conseil à Eva Roque avant de répondre. Toujours lui demander conseil.
Ouais.
C'est un quiz sur les couples dans la presse.
Ah bah
souvent,
ça, oui.
À la une des journaux, des couples défraient la chronique. À vous de me dire si ces infos ont vraiment fait la une ou s'ils sont totalement inventés. C'est parti. Mickaël, lu dans Le Parisien, le père force les enfants à regarder les Simpsons, la mère porte plainte. Vrai ou faux titre de presse?
Je sens... il faut que je demande conseil?
Pas obligé, non, vous n'êtes pas obligé.
Si, respectons les règles.
Oui, non, mais j'ai dit que des conneries.
Je pense que c'est vrai, vous ne l'auriez pas inventé.
Eva?
Oui, moi aussi j'aurais dit vrai.
Eh bien, vous êtes de bons conseils. C'est faux.
Ah, merde.
Faux titre. Le vrai titre du Parisien était... Oui, vous avez dit merde à l'antenne.
Oui.
Le père force les enfants à manger des légumes, la mère porte plainte. Ça vous paraît exagéré? Non, ça vous paraît exagéré, mais sachez qu'il s'agissait quand même de brocolis. Donc quand même, la plante n'a pas été acceptée. Arnaud Ducré, dans 20 minutes, elle nomme son chien Gâchette. Son chien lui tire dessus. Vrai ou faux titre de presse?
Eh ben, tu sais quoi, ça, c'est les titres de détective machin, les trucs improbables d'histoire. Ben, moi, je dis que ça, c'est vrai.
C'est une bonne réponse. Arnaud, tu n'as pas consulté Eva, et c'est le bon choix stratégique, visiblement, dans cette émission.
Justement, je veux pas.
C'est vrai. Ali Carter, 25 ans, dans l'Indiana, elle participe à une partie de chasse inexpérimentée. Elle laisse son fusil par terre. Le chien Gâchette marche sur la gâchette. Fort heureusement, le chien n'a rien eu. Ali, elle, a eu un peu de plomb dans les pieds. Mickaël Youn.
Mais qui sont cons, c'est pas possible, les Américains.
C'est toujours le vrai. Mickaël Youn, lu dans l'Obs. Il va chercher du collier pour sa femme. Il confond avec de la glu. Vrai ou faux titre de presse?
C'est faux.
Consultez Eva Roque.
Non, consultez pas.
C'est faux. Je pense qu'il n'est pas revenu avec de la colle. Il est revenu avec autre chose. Il est revenu avec de l'acide ou. C'est pas ça.
De l'acide, mais tout le monde n'a pas votre vie dissolue. Tout le monde n'a pas de l'acide à portée de main.
Donc c'était vrai.
C'est une bonne réponse de Mickaël Youn qui s'est rattrapé au dernier moment. Il a bien fait. L'homme, un peu étourdi, et comme ça se passe aux États-Unis.
Ah, qui sont cons, les Américains.
On embrasse tous ceux qui nous écoutent là-bas, évidemment, ils sont nombreux. La femme n'a ni emploi ni mutuelle. Elle va passer une semaine avec l'œil collé. L'histoire fait la une de la presse en Floride. Un médecin a finalement consenti à la soigner gratuitement. Et parce que les Américains ont ça de bien aussi, mais que là-bas.
À quel moment il a confondu le collier avec de la superglue?
Et puis à quel moment elle le confond aussi. Enfin, ils sont deux à l'avoir confondu quand même.
Oh, ils sont doublement cons. Arnaud Ducré dans le Daily Mail. La femme aux deux vagins a eu un enfant. Vrai ou faux titre de presse?
Est-ce qu'il y a un vagin pour les garçons, un vagin pour les filles?
On n'a pas enquêté jusque-là.
Vous n'avez pas enquêté jusque-là, d'accord. Je dirais que non, c'est faux.
Vous dites que non, et pas pourtant c'est vrai.
Oh la vache.
Alors non seulement Eleanor Rowe est britannique, mais en plus elle a un vagin et un utérus dit d'elfe. Comprenez que tout est double. Le vagin, l'utérus et le col de l'utérus. Cette malformation ne se détecte pas pendant un simple examen gynécologique. Il faut une échographie. Cela concerne 1% des femmes. C'est ouf, ça paraît énorme. Et parfois...
Ouais, Eva, fais pas la fiche.
Et parfois, on l'ignore. Généralement, on opère pour réunir les deux utérus. D'accord. Conseil que je donne comme ça. Mickaël Youn.
Lui, on avait beaucoup de vannes, mais on s'est dit qu'il était peut-être un peu tôt pour tout balancer. Là. Bah, les trucs sur la double P, tout ça, on n'y est pas allé.
Mais c'est les pattes.
C'est les pattes.
Mais
oui, les double P.
Mettez-moi deux
double P. Deux rations de P à la rabiata.
On continue. Lui, dans le Corriere della Sera, un couple de Français tente de voler une gondole à Venise, mais coule avec. Vrai ou faux?
Ça, c'est sûr que c'est vrai.
Ça s'invente pas. Mickaël Youn, une bonne réponse. C'était la nuit, il pleuvait, il commençait à couler, la police est arrivée à temps. Ils ont dû rembourser la gondole. Sachez que le prix d'une gondole peut aller jusqu'à 50 000 euros.
C'était l'Estonie Chardenne.
Ah oui,
on leur avait dit. Il faut les laisser à Venise. Il ne faut pas les ramener.
Arnaud Ducret, la dernière question, ça va vous départager dans The Sun. Elle oblige ses enfants à sauter des repas pour se payer une paire de seins. Vrai ou faux?
Alors ça, c'est vrai, je vais te dire que c'est... Ils ont mis quoi là-bas? Ils ont mis deux choux-fleurs. Je vais te dire un truc. C'est totalement vrai.
C'est totalement vrai, c'est terrifiant. C'est pas du tout drôle pour finir ce quiz.
Bah
pendant deux ans, elle a mis toutes les semaines 540 euros de côté. Elle évitait d'acheter des habits aussi à ses quatre enfants. Au bout de deux ans, elle a pu aller en Pologne, mais la première opération a échoué. Il y en a eu une deuxième qui n'a pas convaincu non plus. Madame Gibson tente actuellement de faire financer une opération réparatrice par la sécurité sociale britannique. On embrasse Madame. Comme quoi, les comptes ne sont pas tous aux États-Unis, ils sont aussi
en Angleterre.
En Angleterre, bonne réponse. Du Cré, qui remporte le quiz? C'est les deux. C'est les deux. Égalité, magnifique. Vous voyez, Eva, quand vous ne jouez pas, ça se passe mieux.
Ouais.
Avec l'été qui approche, certains d'entre vous ont pris des bonnes résolutions.
Plus de poudre, ni de pétard.
Donc, par exemple, c'est par exemple. Ou bien, plutôt que de regarder n'importe quoi à la télé ce soir, écoutez scrupuleusement les conseils éclairés d'une professionnelle qui a tout regardé pour vous. Elle en a les yeux injectés de sang, la pauvrine. Les recommandations télé et écran d'Eva, c'est juste après. Désolé pour hier soir, trio sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous connaissez McFly et Carlito?
Mais oui. Vous dites trio, c'était trio et McFly.
Trio,
oui.
Avec McFly et Carlito. Il faut se tenir informé des nouvelles tendances, Arnaud Ducret. À force de faire la promo de Divorce Club, j'ai l'impression que vous ne sortez plus. C'est terrible.
Ben oui, on est sorti avec Papy fait de la résistance.
On a commencé sous VGE.
Heureusement qu'il n'y avait pas les valseuses en face de nous, sinon on ne sortait pas.
Michael Youn, vous êtes derrière les caméras de ce film Divorce Club, cette comédie très réussie qui nous a beaucoup plu avec Eva. Lucien Jean-Baptiste, qu'on recevait à ce micro il y a quelques temps, nous disait « Quand on est à la fois devant et derrière la caméra, on n'a plus d'orgasme. » Est-ce que c'est votre cas aussi, ou vous avez réussi à avoir quelques orgasmes quand même durant ce tournage?
C'est-à-dire qu'en fait, être réalisateur, c'est être conscient de tout, tout le temps, en permanence, du moindre détail. Et puis être un comédien, c'est s'abandonner. Donc c'est très difficile de concilier les deux, et c'est forcément le réalisateur qui l'emporte. Donc oui, Lucien Jean-Baptiste a raison, l'orgasme de l'acteur n'existe plus. Et comme le réalisateur, lui, ne jouit jamais,
il
est dans l'angoisse permanente, puisqu'il est dans le problème suivant, effectivement. Donc voilà, je voulais vous dire que comme le film, en plus, n'est pas sorti depuis deux ans, ça fait deux ans que j'attends, et patate au fouille sac.
Alors messieurs, je ne sais pas si vous passez beaucoup de temps devant les écrans, mais sachez qu'Eva, notre expert média, est là pour vous guider. Son expertise et surtout la clarté de ses explications vont vous séduire. Vendredi encore, le documentaire sur Louis de Funès, on était sur du très très clair.
De Funès, notamment sa famille qui est absolument c'est incroyable, c'est une vraie série, enfin vous regardez-le, vous allez voir, c'est génial.
Regardez, c'est l'expertise média.
Tu fais des mini AVC en fait.
C'était un lendemain de soirée un peu difficile.
T'as commencé jeudi, j'avais envie de voir la gueule de ton week-end. Bon, alors, enchaînons, et qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Un programme original qui est à découvrir sur Amazon Prime Video depuis quelques jours et qui s'appelle True Story. Alors, le concept, il est très simple. En fait, c'est des personnalités qui viennent raconter une histoire incroyable qui leur est arrivée et des youtubeurs, alors comme McFly et Carlito qu'on vient d'entendre.
Qui ça?
McFly et Carlito reconstituent ces récits en ajoutant leur touche d'humour. Alors, c'est aussi déjanté que votre film, Michael. Et d'ailleurs, il y a question de mariage avec l'histoire qui est racontée par Olivier et Géraldine Nakache. Et c'est une histoire qui est très drôle et qui, de toute évidence, a inspiré Le Sens de la Fête, le film que vous adorez, Mathieu.
Ah oui, j'aime bien ce film.
Parce qu'en fait, quand il était jeune, Olivier Nakache a eu l'occasion d'animer un mariage. C'est la première fois qu'il doit animer un mariage, mais alors c'est un moment surréaliste. Géraldine fait office d'hôtesse d'accueil avec une de ses copines qui, quand même, préfère boire des coups avec les invités plutôt que d'assurer son boulot. Il y a le couple de mariés. Alors lui, il est totalement sous la coupe de sa future femme qui est un vrai dragon. Et puis il y a surtout le lieu du mariage, une péniche où on peut obtenir de l'électricité pour la sono, mais c'est toujours un petit peu compliqué et l'arrivée des mariés va pas se passer comme prévu.
Non, plus rien. Et moi je suis avec mon micro, donc plus de son dans le micro, donc tout le monde fait « Oh !» Ça revient un peu. Ça répète.
Mais non, mais c'est pas possible.
On dirait vraiment un mix, quoi.
Et moi, je crois qu'il fait des ambiances pour que les gens chantent. Ouais. Donc, on voit pas la galère, nous. C'est juste que quand je vois la tête d'Olivier, je dis, je le connais, il a chaud, c'est bizarre.
Tu peux nous décrire peut-être le regard des mariés sur
fusillé. Elle m'a fusillé du regard, je m'en rappelle.
Et alors les mariés ne vont jamais entendre la fin de la chanson, la sono va lâcher, les animations vont foirer et le tout se conclut quand même par une bagarre entre les copains de la mariée et ceux du marié. L'histoire elle est dingue, elle est très très drôle, 23 minutes de délire et alors chaque épisode de cette série est de la même teneur. Je vous conseille l'histoire de Jonathan Cohen. Si vous voulez savoir comment et pourquoi il se retrouve un 24 décembre à Los Angeles dans un hôpital à devoir déshabiller Mel Gibson, voilà, et ben, vous regardez True Story sur Amazon Prime Video.
Et alors la grande force de cette série, c'est que toutes les histoires sont mises en image, comme une mini-fiction, comme un petit film avec chacun joue des personnages différents, et ça permet un double regard avec beaucoup d'humour. C'est super bien fait, c'est très très drôle.
J'ai chanté pour des mariages très longtemps quand j'étais jeune. Et j'ai vu des bagarres, moi, de famille.
Ah oui?
Ah ouais, avec la mariée en larmes et tout. En plein. Non. Non, encore. Non, et en fait, c'était genre, c'est moi qui. Parce qu'il y en a un qui payait plus que l'autre, quoi. C'est moi qui ai fait le mariage! Et la Cadillac, c'est moi qui l'ai loué, la Cadillac, ma fille!
Là, ça part en bagarre, la mariée.
Jean-Pierre, lâche-le, Jean-Pierre!
Évitez l'état du mariage, divorcez directement. Europe 1. Une première manche se referme dans l'équipée sauvage, la palpitante compétition qui oppose chaque après-midi les journalistes qui ont en commun au moins une chose:
leur égocentrisme.
Leur talent, Mickaël, leur talent. Oui, Mickaël Lyon et Arnaud Ducré restent avec nous par devoir contractuel et par plaisir, car nulle part ailleurs vous n'entendrez ce sujet dont rien que le titre est en soi la promesse d'un grand moment, je cite, sur les traces du masseur kinésithérapeute belge qui a décidé de grimper le Tourmalet en ballon sauteur. Si tu restes pas là, tu restes dans aucune émission.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Le mec derrière qui a la gueule un peu déformée, qui est en train de la prendre en levrette.
Je ne sais pas qui a la gueule un peu déformée et qui a été pris en levrette, mais dans tout cas, nous sommes à l'antenne. C'est la mi-temps pour nos glissateurs de l'info. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre.
Les histoires de sa mère en vacances.
Sous le regard complice mais exigeant de nos invités d'honneur, Mickaël Youn et Arnaud Ducré, le raffiné. Arnaud Ducré, le programme de cette deuxième heure, digne d'un Camoulox géant, inclut des produits L'Oréal plus respectueux de la diversité, un sauté de peau aux olives, ainsi qu'un Belge grimpant le Tourmalet en ballon sauteur, le tout orchestré par Eva Rock, qui est, je le rappelle, rédactrice en chef de cette émission. Non. Ce qui fait que c'est elle qui a la lourde tâche d'annoncer à l'équipe que le sujet d'une chroniqueuse n'est peut-être pas aussi intéressant qu'on l'avait imaginé.
Et au téléphone.
Ah, au téléphone. Bah oui, hélas, tu ne la verras pas en
vrai. Ouais.
Pour une fois qu'elle allait parler des animaux en chaleur.
Non, c'est les animaux et la chaleur.
Ah, pardon.
C'était un peu déceptif comme sujet, du coup. Mais tiens donc, Eva, il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Nos arbitres du jour, Arnaud Ducré et Mickaël Youn, qui jouent du tambour avec leurs mains. À l'affiche le 14 juillet du film Divorce Club, où l'art de se reconstruire et de se réinventer émotionnellement après le traumatisme d'un divorce. Sujet que maîtrise d'une certaine manière assez bien Eva Rock, puisqu'elle a une méthode très personnelle pour attirer l'attention des hommes fraîchement séparés, au supermarché notamment.
Oups, j'ai fait tomber mon concombre.
Messieurs, on continue de parler de Divorce Club, la comédie de l'été. Juste le temps de vous présenter nos deux derniers concurrents de cet après-midi. Face à vous, il est le sosie français d'Harry Potter. Il a en effet les lunettes d'Harry Potter qu'il vient d'enlever pour ne pas qu'on le reconnaisse. Le chic anglais d'Harry Potter, mais aussi la taille d'Harry Potter, enfin épisode 1 à 3.
Salut Emmanuel.
Tu te mets très très bas.
Toujours parce que je déteste ne pas avoir les pieds qui touchent le sol et vu que je fais 1m14.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Et c'est toujours une présentation très avantageuse.
Avec quel sujet allez-vous nous enchanter aujourd'hui, mon cher Emmanuel?
Alors, de ce que j'ai entendu, la première heure de l'émission était très potage, donc je vais pas être super potage, donc j'ai peur de tout tomber un peu à plat. Non, mais c'est le sujet un peu du moment. L'Oréal qui a décidé ce week-end d'enlever les mots, je sais pas si vous avez vu, mais blanc, blanchissant, tout ça dans le cadre d'une polémique mondiale aujourd'hui sur l'antiracisme. Et ce qui est marrant, c'est que ça a créé un tollé. Alors, on s'attendait pas obligatoirement à ce que L'Oréal se fasse taper sur les doigts en prenant une telle décision. Donc, on va voir qu'est-ce qui justifie une telle décision, pourquoi ils se sont fait taper sur les doigts et est-ce qu'ils sont tout seuls à le faire.
Effectivement, on va se faire chier. Votre dans cette manche, Emmanuel.
Moi, je suis excité. Hein.
Étendu. Oui, excité.
Moi, je suis en demi-dur.
Oui, c'est vrai, vous êtes pas mal. Emmanuel est en duplex avec nous de Toulouse. Il est le correspondant d'Europe 1. Ses deux passions dans la vie, le journalisme et le tuning. Samedi, il a encore passé une super soirée.
Est-ce qu'il y a des Twingo ce soir?
Bonjour, Benjamin Peter.
Bonjour.
Aujourd'hui, alors donc, c'est vous. Hein, c'est vous qui nous parlez d'un kiné belge qui a décidé de grimper le Tourmalet.
Non pas en vélo comme les champions du Tour de France, non pas en Maserati comme Michael Youn, mais en ballon sauteur. Mais problème de budget, de santé mentale, expliquez-nous.
Je vous emmène dans les Pyrénées sur les pentes du Tourmalet, donc c'est l'un des cols les plus mythiques du Tour de France. Je sais ce que vous allez me dire, Mathieu, ça vaut pas la vallée de Zermatt où ça se fait.
Ça, c'est ce
mais c'est magnifique quand même. Le Tourmalet à vélo, c'est un exploit, évidemment, mais donc ce kiné belge l'a gravi il y a quelques jours en ballon sauteur. Autant vous dire que je mise à peu près toute mon année sur cette chronique.
Le ballon sauteur, c'est le truc qu'on avait quand on était gamin.
Vous décrire, oui. Ouais.
Vous allez nous l'écrire en détail pour qu'on se remémore. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ballon sauteur avec Michael. Pour l'instant, qui l'emportera, nous le saurons vers 18h. Mais pour l'instant, Eva, je crois que c'est l'heure
oui.
du mix.
Oui, le petit florilège.
Le florilège, pardon.
En fait, on cherche des petites séquences sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. C'est notre producteur Sébastien Bornave qui s'en charge. Il a trouvé Jean-Louis Aubert qui continue de faire des petits lives au piano. Et puis l'humoriste Tom Villa qui décerne le prix de l'application pour smartphone. Je vais y arriver. La plus inutile.
Cette semaine, dans la catégorie de l'application qui ne sert à rien, les nommés sont l'application Airbnb, l'application Boussole, l'application Stop Covid, et le grand gagnant est... Suspense. Je m'en doutais. L'application Stop Covid. Bravo. Bon, en même temps, Stop Covid, une application qui nous est proposée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, on se doutait que ça allait pas être le nouveau TikTok. A été téléchargée 1,9 million de fois et surtout, a priori, il y en a 500 000 qui, juste après l'avoir téléchargée, l'ont supprimée directement. C'est comme les jeux pour smartphone que tu vois en publicité sur Instagram ou Facebook. Tu regardes la pub, putain, ça a l'air ouf ça. Puis après, tu télécharges le jeu et en vrai, c'est de la merde.
J'en ai tellement des jeux comme ça dans mon smartphone. Oui. C'est vrai que ça
c'était
prend de la
Tom
place.
Et Jean-Louis Aubert.
Tom Villa qu'on embrasse.
Oui, on lui fait un bisou, effectivement.
Et à Jean-Louis Aubert aussi.
Et Jean-Louis Aubert, on lui fait beaucoup de bisous. Michael, en mars dernier, vous avez organisé une soirée spéciale Morning Night, excellent titre, sur M6, qui a été un gros carton, je crois, en audience.
Exactement, ça, c'est la meilleure audience de l'année, c'est pas compliqué.
En toute simplicité, la meilleure audience. C'était des années complètement dingues, le Morning Night.
C'est vrai.
Vous faisiez souvent taper sur le doigt par le CSA ?
Quelquefois. Oui, quelquefois ça nous est arrivé, mais on s'en foutait un peu.
Arnaud, vous étiez fan du Morning Live, vous regardiez
Moi, j'étais fan du. Ah, évidemment, j'étais fan du Morning Live. J'ai eu la chance, moi, après, de faire quelques sketchs pour le Morning Live, mais bien après. Morning Café, bien après ce que Michael avait fait, qui était déjà passé derrière Michael, c'était très compliqué. Mais je me rappelle que Vincent Desagna m'avait dit, quand je faisais. Moi, je démarrais, je faisais des sketchs et tout, il m'avait dit surtout Arnaud, les sketchs que t'écris. Ne donne pas les bons textes à la chaîne.
Tu
donnes des textes, tu leur fais croire que la fin, c'est ça. Résultat des quoi, je me suis fait virer deux fois de l'émission.
Vous avez fait pareil pour le Morning Night ou pas?
On tournait parfois sur les sketchs, on tournait deux fins, la fin qu'on leur montrait et la fin qu'on diffusait. Puisque le matin, de toute façon, il n'y avait personne dans le studio, c'était limite moi qui mettais la cassette dedans, qui appuyait sur
l'émission en prime. Mais la dernière fois, vous n'avez pas pu.
Ça a été plus contrôlé ou non?
Non, mais ils nous ont laissé carte blanche pour l'émission en prime. Après, en prime, on fait un peu plus attention qu'entre 7h et 9h, parce qu'il y a bien pas mal d'enfants aussi qui regardent. Mais non, ils nous ont laissé carte blanche. Ils l'ont d'ailleurs un peu regretté, je pense.
Il y en a un deuxième qui est déjà tourné.
Il y en a un deuxième qui est déjà tourné, qui sera diffusé, je pense, à la rentrée, quand les annonceurs seront revenus.
C'est ma question. Qu'est-ce que vous seriez devenu si vous n'aviez pas percé dans le cinéma ou à la télé? Vous avez commencé par une école de commerce.
C'est super compliqué comme question.
Mais non, mais je me suis toujours intéressé pour voir ce qu'auraient fait les gens. Est-ce qu'il y aurait eu un plan B? Si vous étiez au CERAM à Nice, une école de commerce, je salue mes amis qui étaient au CERAM. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez pu devenir mettre un petit costume et devenir. Qu'est-ce que vous auriez fait?
Je l'ai un peu fait, mais je sais pas. Je pense que j'aurais fini par, je l'espère, je sais pas, créer une boîte un peu créative ou je sais pas.
Ah, vous auriez pu être un patron d'une start-up.
Je sais pas. C'est très difficile puisque je me sentais quand même très très attiré par ce métier. Je pense que je n'aurais rien pu faire d'autre. Excusez-moi.
Et vous, Arnaud?
Un métier en tout cas sur la relation, la communication, voilà. Donc quoi, je ne sais pas, mais pas dans un bureau, ça c'est évident. Mais c'est vrai que j'avais tellement envie de ce métier depuis que je suis tout gamin que je me rends compte que tout gosse, en fait, inconsciemment, tu vas dans la direction de ça, en fait. Et puis après, ça se concrétise, quoi, ou pas. Mais
c'était
bon,
ça ou les chevaux pour toi?
C'est ça ou l'équitation. J'adore les chevaux. Je suis sorti de moi avec un pur race adorable.
Si vous aimez les cosmétiques politiquement corrects, le veau aux olives et les masseurs belges qui font du ballon sauteur dans les Pyrénées, vous ne serez pas déçus par ce qui suit.
Europe 1.
Et comme le suspense est vraiment trop fort, trop dévorant, à la demande générale, nous allons commencer par l'histoire du kiné belge qui a décidé de grimper le Tourmalet sans vélo, mais en ballon sauteur. Michael Youn, vous vous rappelez de la dernière fois que vous avez entendu un truc aussi con?
En fait, j'étais dans mes toilettes et je lisais France Football.
Mais ça sera de ce niveau-là.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est le tandem le plus drôle de l'été.
Jeanne Masse et Jackie Quartz.
Non, de cet été 2020, Eva. Arnaud Ducret est à l'affiche de Divorce Club, le nouveau film de Michael Youn. Arnaud Ducret, vous nous avez fait l'honneur d'être avec nous pendant le confinement. Vous avez eu au téléphone, ma question est simple, est-ce que vous allez mieux ?
Ma fiancée a des triplés et puis mon fils. Jamais de la vie d'introspection, mais je m'en contrefous. Moi, je veux tourner des films, je veux voir mes copains, je veux faire des terrasses, je veux aller sur les Champs-Élysées, qu'il y a plein de monde. Moi, je déteste ce moment.
C'est on vrai vous que remercie pour votre honnêteté. Oui. C'était, c'était vraiment notre invité le plus honnête pendant cette période du confinement.
Vous avez vraiment une voix de déprimé, je m'en rends compte.
J'ai très mal dormi pendant le confinement. Merci. Et j'arrive même plus à le dire, vous avez vu. Pendant le confinement, donc j'avais qu'une envie, c'était de... Non, mais moi, les mecs, toutes ces émissions là, vous entendez, non, mais c'est bien parce que je pense que c'est un moment où on peut se retrouver. Ta gueule, laisse-moi tranquille. Moi, je veux aller. La vie continue, c'est quoi cette histoire? Voilà.
La vie continue aussi en ballon sauteur dans les Pyrénées. Benjamin Peter, vous êtes en ligne avec nous?
Oui.
Il y a quelques jours, un Belge a décidé de gravir le Tourmalet. Pas à vélo.
Mais non, avec donc ce ballon qu'ont les enfants, vous savez, au-dessus de deux poignets, et pour avancer, vous poussez sur les jambes. Et pour traverser le jardin, c'est plutôt facile. Voilà. Mais Glenn Valentin, il n'aime pas vraiment ce qui est facile. Lui, donc, il est kiné, installé à Pau, et il s'est dit qu'il allait grimper ce col mythique à cheval sur le ballon, sauf que déjà en vélo, bah, l'exploit est colossal. C'est plus de 18 km,
et
à 7,5% de moyenne. Ah ouais. C'est même 10% dans les deux derniers kilomètres. Pour y être allé plusieurs fois, on croise toujours quelques cyclistes et ceux qui parviennent en haut sont vraiment des costauds. Donc, je vous laisse imaginer en ballon sauteur. Mais ce qui m'expliquait, c'est que le plus difficile, c'était finalement de garder le moral parce qu'on n'a pas vraiment la sensation d'avancer.
J'avais une moyenne de 1,5 km par heure sur le Tourmalet. Donc, c'est pas beaucoup. Parce que chaque kilomètre, il y a un panneau. Et parfois, on voit le panneau déjà de 200 mètres ou 300 mètres d'avant, mais on rapproche tellement lentement que c'est démoralisant.
Pardon, on ne se moque pas.
Non, malade, les mecs.
C'est un beau défi. Hein. Du coup, il a réussi sa montée en combien de temps?
Il a mis 11 heures.
Oh, mon Dieu.
Il a même crevé à 700 mètres de l'arrivée.
La tuile.
Heureusement, sa voiture balai en avait prévu trois autres. Donc, il me disait qu'il était même étonné que son ballon ait tenu aussi longtemps.
Une pensée,
donc,
Benjamin, pour la personne qui est dans la voiture balai, qui doit être sa femme.
Qui l'a suivi tout le long.
Pendant 11 heures. Pendant 11 heures.
Et comme dans le Tour de France, donc on change de monture et on repart. Donc, 11 heures avec des gens qui l'encourageaient régulièrement, mais avec des douleurs terribles dans les jambes.
Ah, tu m'étonnes.
Notamment aux ischio-jambiers. Il m'expliquait que les premières douleurs sont apparues au deuxième kilomètre. Donc, arrivé en haut, 16 km plus loin, il n'en pouvait plus. Il a dû faire des pauses régulièrement.
Presque toute la montée, j'ai fait à peu près 120 sautes et puis je devais faire des étirements et souffler un peu. Mais les deux derniers kilomètres, je devais m'arrêter tous les 20 ou 30 sautes parce qu'il y avait tellement mal partout. C'était vraiment l'enfer. J'ai mis 2 heures encore pour les... pour les finir.
Je crois que j'avais une question à vous poser, mais je crois que Mickaël a la même. Non, vous vouliez intervenir, Mickaël.
Pourquoi?
Précisément ma dernière question.
Pourquoi? Vous lui avez demandé, Benjamin?
Exactement.
Pourquoi?
Et bah déjà pour l'exploit, parce que je pense que personne n'y avait pensé avant. Du coup, on peut imaginer qu'il détient le record de l'ascension en ballon sauteur. Et puis parce que pendant le confinement, comme Arnaud Ducret, il tournait en rond, comme nous tous, et il s'est dit que lorsqu'il retrouverait la liberté, il voulait faire quelque chose pour une bonne cause, et donc il fait pour l'association Petit Prince, qui réalise, vous savez, rêve des enfants malades.
On comprend mieux.
Il s'est dit que son défi, c'était quelque chose d'un peu enfantin, donc ça collait bien finalement avec l'esprit de l'association. Il invite d'ailleurs à continuer à faire des dons sur le site de Petit Prince. Et Glenn, il n'a pas l'intention de s'arrêter là, puisqu'il a un nouveau projet.
Maintenant, il va redescendre le Tourmalet avec son ballon et il est donc décédé.
Non, il doit traverser les Pyrénées d'est en ouest à dos de licorne.
Hein?
Oui, oui. Alors, il n'a pas voulu m'en dire plus, mais il m'assure qu'il a des contacts avec un élevage de licorne, donc je lui fais confiance. Le gars est quand même recordman du monde de l'ascension du Tourmalet en ballon sauteur, c'est pas n'importe qui.
Il est visiblement issu de cette partie de la Belgique où le cannabis est dépénalisé, clairement.
En tout cas, il a beaucoup d'humour.
C'est vrai.
Il va remonter tout en vélo sans selle.
Il a beaucoup d'humour et beaucoup de jambes.
Merci beaucoup, Benjamin Peter. Si vous ne décrochez pas le prix Albert Londres avec ce sujet, franchement, c'est à n'y rien comprendre.
Europe 1.
Elle est le soleil de cette émission. Souvent, d'ailleurs, je lui dis
tu es le soleil de ma vie.
Eva Rock a ça de merveilleux qu'elle est toujours gaie et rieuse. Elle réussit à être joviale en étant stressée, calme en étant stressée,
de bonne humeur en étant constipée.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va s'occuper de vous personnellement juste après James Brown, I Got You sur Europe. I Got You, c'était James Brown sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et nous sommes toujours en compagnie des deux plus insatiables déconneurs du showbiz, Mickaël Youn et Arnaud Ducret, qui nous a régalé de ses farces durant le confinement lorsqu'il était notre invité par ligne.
Allô ? Allô ? Non, là c'est Jean-Paul Roux à l'appareil.
Oh, c'est marré ! Aujourd'hui, c'est avec un réel plaisir qu'on vous accueille en studio pour fêter la sortie le 14 juillet de Divorce Club, une comédie signée donc Mickaël Youn avec nous aussi et qui a bien fait marrer Eva.
Bah oui, alors évidemment, il est question de divorce mais de mariage, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais on ne s'est pas interrogé sur votre mariage à tous les deux, votre première rencontre, c'était quand ?
Ah, quand on s'est rencontrés tous les deux ?
Oui.
C'était l'émission d'Arthur, je crois. Non ?
Ouais.
L'émission
que
vous...
Ça l'a pas marqué, mais non, c'est... Non, c'est pas quand je suis venu te voir à Spamelot ?
Ah oui, ok.
Formidable comédie musicale. Oui, enfin, je sais pas, c'est pas une... Oui, c'est une comédie musicale, on peut dire ça comme ça.
Sûr, sûr. Comédie musicale, oui, c'était notre première rencontre. Voilà. Bon, moi, j'avais très envie de bosser avec lui.
Moi, j'avais juste très envie de lui.
Voilà, justement. Alors, justement, votre premier dîner en tête à tête ?
Le premier dîner, c'était
j'ai repris. Oui, mais sur McDonald's.
Bah non, mais pardon, non, mais c'est pas ça. C'est vrai qu'on était pas loin, donc voilà, on s'était.
C'est vrai que c'est pratique quand on est sur les champs.
On a pas fait vraiment de dîner en tête à tête. On est souvent accompagné, soit par des potes, soit par nos moitiés,
ouais.
Soit par des échangistes
qui sont avec nos moitiés. Ouais.
Alors votre première scène, hein, d'abord première scène dans le film. C'est là, vous avez commencé le tournage avec avec quelle scène ?
La scène où il est agent immobilier dans son agence.
Ah oui.
Non, plutôt calme. C'était pas la scène la plus
difficile. Plutôt calme. Par la nudité.
D'ailleurs, ça a une particularité, cette scène, c'est qu'on a tourné dans une agence Stéphane Plaza.
Et oui.
Puisqu'il devait y avoir un placement produit Stéphane Plaza.
Et oui. On l'a bien vu.
Et finalement, donc, les négociations n'ont pas abouti. Et Stéphane Plaza a fini par nous dire non. Et donc, nous, comme en plus on a loué le décor pour pouvoir tourner dedans, on est le seul placement produit payant de l'histoire du cinéma. C'est quand même pas mal. Et donc après, M6 me dit, dis donc, dans ton émission, t'en balances pas mal sur Stéphane Plaza. Je vais me gêner.
Stéphane, si tu nous écoutes, on t'embrasse.
Et alors, première scène dans la vie, hein. Vous êtes déjà engueulé ?
Pas vraiment engueulé, mais comme il expliquait tout à l'heure, moi, il y a des moments où j'ai pas de filtre. Donc... je trace et je fais des balles parfois qui sont pas.
C'est comme quand t'arrives à 140 km/h, qu'il y a un mur au bout et que tu vois le mur, tu fais. Tu vas freiner là, non ? Tu vas freiner. Freine. Il freine trop tard. Bah ! Et juste avant, tu regardes, tu fais putain, je t'avais dit de freiner !
Donc il m'a déjà engueulé, mais on s'est pas engueulé, non, parce qu'il avait, il avait raison. En fait.
Mais sur le tournage ?
Non. Sur le tournage, non. Après, c'est sûr que moi je suis une grande gueule, je sais aussi ce que je veux. Arnaud, c'est quand même un gars qui a une grosse personnalité aussi. Mais on n'a pas vraiment eu d'accrochage. On a eu des moments où forcément, peut-être il en avait marre de ce que je lui demandais. En l'occurrence, moi, en tant que réalisateur, j'aime les acteurs qui délivrent dès la première prise, et Arnaud, c'est le cas. Donc moi, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur lui.
On se parlait du boulot, quoi. C'est-à-dire que des fois, on n'était pas d'accord sur des trucs où je disais, voilà, c'était du travail, tout simplement. Quoi.
Est-ce que vous êtes juré fidélité, tous les deux ?
Non, heureusement. Heureusement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va retravailler ensemble. On fonctionne très très bien. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec un acteur aussi talentueux. Quoi.
Vous l'avez déjà dit, mais il pourrait y avoir un épisode 2 d'ailleurs.
Ah bah,
c'est déjà écrit.
En tout cas, c'est en chemin. Mais ça, il faudrait peut-être que les gens aillent au cinéma, parce que ça suffit d'aller voir des coups en terrasse, hein, pour aller choper les Covid. Donc maintenant, vous allez retourner en salle.
L'autre fois, quand il y avait les mecs qui faisaient du jogging, c'est drôle. Ce qui est très bien. On a mangé tous les deux en terrasse l'autre fois. Il y avait
C'est vrai qu'on a fêté le confinement. Oui, tous les deux.
On était sur la terrasse du café et t'avais les mecs qui couraient, qui évidemment maintenant courent et toutes les terrasses sont ouvertes. Donc les mecs qui couraient, ils passaient entre les terrasses et tu voyais faire des gueules improbables.
Oui, Michael, parce qu'il y avait trop de monde.
Et t'avais Mickaël qui regardait chaque coureur qui disait oh ta gueule, maintenant c'est à nous, hein, c'est bon.
C'est bon, vous avez fait du jogging pendant tout le confinement, maintenant c'est un pauvre mec qui va le picoler la place.
Conformément à l'accord financier que nous avons passé hors antenne, ils sont les princes du rire, les ambassadeurs du renouveau de la comédie populaire de qualité à la française. Mickaël Youn, Arnaud Ducret sont nos invités jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est un sujet qui, j'en suis sûr, va passionner nos invités. Le réel qui décide de retirer certains mots offensants de ses packagings, comme par exemple blanchissant. Si je vous dis, Mickaël, que notre expert éco a enquêté pour comprendre comment les grandes marques s'adaptent au mouvement antiraciste.
Là, je me dis, mon Dieu, mais quelle bonne idée !
Bon, n'en faites pas trop non plus.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Une claque zygomatique doublée d'un coup de fouet neuronal, voilà ce que vous cherchez dans l'équipé sauvage. Vous connaissez par cœur, vous n'allez pas être déçu. Déjà parce qu'en matière de claque zygomatique, Divorce Club, le film de Michael Youn avec Arnaud Ducré qui sort le 14 juillet, il se pose là. C'est un très très bon film, une excellente comédie. À partir de combien d'entrées, vous avez esquivé ma question,
que je veux savoir.
Millions. Non, mais
à partir de combien d'entrées il y a la suite ou à partir de combien d'entrées on est content?
La suite, elle va être faite de toute façon, non?
Non, pas forcément.
Bah
non,
ça marche.
Faut que ça marche,
très franchement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce film? On en parle depuis des mois de ce film. Bon, il n'y a qu'un seul film cet été, je vous le dis franchement.
C'est très difficile de parler d'entrée parce que déjà, on ne veut pas se porter la poisse. Déjà, il y a le confinement qui est passé par là. On ne sait pas quels vont être les réflexes cinématographiques des Français. Mais c'est sûr qu'on serait content à entrer. Quoi.
Ouais, je suis rassuré. Mercredi dernier, je suis allé voir un film avec mon fils. Et je suis allé voir Ducobu 3, d'ailleurs, avec mon petit gamin. Et beaucoup de gens attendaient devant la salle. Et quand les portes se sont ouvertes, les gens ont applaudi. Donc,
il y a une envie.
Mais ça m'a
fait
plaisir.
Moi, je suis allé voir De Gaulle. En plus, De Gaulle, c'était même pas lui.
C'est vrai, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est pas lui.
Même Christophe Lambert.
C'était même pas lui. Et pourtant, les gens étaient quand même contents.
Comme quoi, ils ont vraiment envie d'aller au cinéma. Face à vous, messieurs, il est l'ultime concurrent du jour. Humainement, c'est certes un type bizarre qui, à 40 ans passés, aime encore traîner dans les parcs d'attractions. Déguisé en Mickey, il offre des bonbons aux enfants.
Mickey devrait beaucoup plus se balader à la rencontre des visiteurs pour faire des selfies.
Heureusement, sur le plan professionnel, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable. Il n'est pas devenu chef du service économie d'Europe 1 sans raison. Emmanuel Dutheil, cet après-midi, vous nous parlez de l'impact du mouvement antiraciste sur les grandes marques.
Oui, vous en avez sûrement entendu parler ce week-end. L'Oréal a décidé de retirer les mots blanc, blanchissant, clair, éclaircissant de tous ces...
L'Oréal, j'ai compris L'Oréal. Je suis très foutu.
Quel Réal.
Vous savez qu'il y a un rapport avec le Réal de Madrid.
Non, là on va rester sur le géant français des cosmétiques. On n'a pas beaucoup de leaders mondiaux, en tout cas pas en football. Nous, on les a au moins dans les cosmétiques. Donc, L'Oréal va retirer donc ces mots blanc, blanchissant, clair, éclaircissant de tous ces produits destinés à uniformiser la peau. Précision importante, cette décision ne concerne pas la France ni même l'Europe. Hein. C'est principalement pour l'Asie où beaucoup de clientes sont fans de ces produits. Alors, les termes white et fair seront remplacés par glow qui veut dire éclat et even uniformisation. Avec cette décision choc, L'Oréal, comme beaucoup de marques, veut envoyer un signal très fort de soutien à tous ceux qui luttent en ce moment contre le racisme. Alors, sans dénier l'engagement sociétal de L'Oréal qui est réel, c'est une boîte qui est plutôt bien engagée en la matière. On est aussi sur quelque chose quand même de très très marketing.
Oui, et d'ailleurs cette décision a déclenché un tollé.
Oui, je ne sais pas si vous êtes très réseaux sociaux, mais le hashtag j'arrête L'Oréal a rapidement grimpé ce week-end dans les tendances de Twitter. Je vous cite un tweet notamment. Si L'Oréal ne veut plus de blanc, moi je ne veux plus qu'il me fasse bronzer, a écrit par exemple un internaute. Certains politiques aussi se sont emparés ce week-end du sujet. Alors je vais vous citer là aussi le tweet qui a peut-être le plus fait réagir. Notre ami Philippe de Villiers, si ce fleuron français fait peser sur ses clientes la honte de leur couleur de peau au nom de cette idéologie délirante, je demande à tous les Gaulois réfractaires d'arrêter L'Oréal, a tweeté donc le patron et l'inventeur du fil du fou. Voilà. On voit que les marques sont vraiment avec ce genre de sujet sur un chemin de crête, mais on en parlait ici même, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, ces marques sont plus que jamais aujourd'hui obligées de prendre position, car de plus en plus de clients achètent certes le produit, mais achètent aussi ce que vend dans l'imaginaire à la marque et son engagement sociétal devient de plus important. L'Oréal se défend de l'avoir fait après l'affaire George Floyd qui a déclenché toutes ces... Oui, ils disent que le calendrier était déjà prévu.
Elle met le chocolat dans le papier.
Ouais. Le calendrier n'est sûrement pas, malgré tout, anodin.
Est-ce que d'autres marques réfléchissent à ce genre d'initiative?
Oui, alors, vous en avez sûrement aussi entendu parler. C'était il y a quelques jours. Mars, qui détient la marque Uncle Ben's, a décidé de revoir le... Oui, ça paraît bizarre que Mars détienne Uncle Ben's, mais c'est comme ça. Ils ont décidé de revoir le logo, puisque certains peuvent considérer qu'il y a une forme de racisme, avoir ce papy noir sur toutes ces boîtes de riz. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'Unilever, qui est alors aussi bien un géant des glaces qu'un géant des lessives et ce genre de choses, qui a décidé, comme plein d'autres marques ce week-end, de ne plus faire de publicité sur les réseaux sociaux, et principalement sur Facebook, parce qu'ils considèrent que les réseaux sociaux ne font pas assez d'efforts pour lutter contre la haine et contre le racisme. Alors, ça peut faire très très mal à des groupes comme Facebook, ça on voit quand on leur touche au porte-monnaie, ils réagissent très très vite. Tout de suite, Facebook a dit « Ouh là là, on va faire des efforts, revenez nous voir et restez chez nous ».
Il y a Gala qui a arrêté de fabriquer du chocolat blanc.
Mais je vais vous donner un autre exemple. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ce qu'on avait appelé le Sparadrap Gate.
Ah non, ça je m'en souviens pas.
sparadrap pour pansement plutôt à la base. C'était en 2018. C'est une journaliste qui s'appelle Rokhaya Diallo qui a un podcast qui marche très très bien, qui est elle-même noire, qui avait dénoncé le fait que par exemple il n'existait pas de pansement pour les peaux noires ou pour les peaux bronzées.
C'est vrai.
Oui, si vous allez, je vais aller regarder ce week-end. Hein, si vous allez dans une grande surface, vous n'en trouvez pas. Alors, elle avait dit que c'était honteux parce que du coup ils étaient obligés d'avoir un pansement couleur chair et
cher.
Et
beaucoup.
Du coup ça se voit beaucoup. Alors, il y avait une petite erreur dans son analyse, c'est-à-dire que ça avait déjà été tenté quand même d'être lancé, je crois, en 2007, mais ça n'avait pas fonctionné, faute de marché. Mais elle s'était pris, là encore, une volée de bois vert derrière, parce que tout le monde avait dit, mais vous critiquez les Blancs, vous critiquez tout ça. Donc, on voit que c'est aujourd'hui extrêmement compliqué, mais on voit que ça bouge aussi très vite, et donc que les marques sont vraiment, là, obligées de se positionner sur tous ces sujets.
Merci Emmanuel Dutheil, ça me fait penser à la polémique dans le cinéma qu'il y a eu sur Autant n'emporte le vent.
Oui.
Qui a été déprogrammé. En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, je trouve ça assez effarant, même si...
Il faut des gestes forts pour faire avancer les choses. Alors après, c'est très difficile de trouver un juste milieu. C'est comme à la période du hashtag MeToo, on est allé aussi très très loin, mais parce que aussi la société le nécessite et mérite cet ajustement. Donc c'est très très difficile de juger quand les gestes sont excessifs, là, comme par exemple L'Oréal. Mais en même temps, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire, et même si je pense que c'est fait avec un petit peu trop de marketing, mais il faut des gestes forts.
Alors juste pour précision, Autant n'emporte le vent est donc redevenu disponible, mais c'est parce qu'ils ont fait une contextualisation, c'est-à-dire ils expliquent le film.
Moi ça je trouve ça très bien, une contextualisation,
mais
supprimer une œuvre totalement, empêcher de voir une œuvre qui a marqué l'histoire du cinéma à un moment, je trouvais ça un petit peu...
Parce que là L'Oréal ils essayent, en disant que c'est pas le calendrier dicté par George Floyd, ils veulent essayer de laisser dire qu'ils y avaient pensé, qu'ils étaient eux-mêmes dans ce mouvement, ce qui n'est pas totalement faux, parce que vraiment la boîte est très très engagée sur...
Oh toi,
on a compris. On a compris quel était votre sponsor. Merci Emmanuel Dutheil. Votre chronique vous permettra-t-elle de vous coiffer de la couronne de chroniqueur du jour qui vous donnera un avantage certain dans les allées de Disneyland? La réponse ne va pas tarder.
Bien.
Europe 1.
Comprendre le monde, mais aussi comprendre les stars. C'est le double objectif quotidien de L'Équipée Sauvage, d'où l'importance de l'interview qui suit, ou en face-à-face avec l'invité. Ce dernier se livre sans tabou, et moi aussi d'ailleurs.
Et ce qu'on sait peu, ce qu'on sait trop peu, j'ai envie de dire, c'est vos talents de human beatbox.
Ah oui.
Non mais ça, c'est pas que votre bouche.
Et ce n'était que sa bouche, Arnaud Ducret est avec nous.
Europe 1, 16h-18h, L'Équipée Sauvage. L'Équipée Sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Divorce Club, le film qui a illuminé le Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez, sort enfin le 14 juillet avec Arnaud Ducret. Son réalisateur Mickaël Youn est également avec nous cet après-midi. Et c'est bon de vous avoir, Mickaël.
Je suis très heureux d'être avec vous.
Ça me fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit dans L'Équipée Sauvage, mais c'est la première fois qu'on vous reçoit sobre. Parce qu'en décembre dernier, avec Sylvie Testu...
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
C'est une insouciance pré-Covid.
Oui, oui.
On était très heureux.
On était insouciants comme un couple Fillon.
Dans Divorce Club, il y a des grosses scènes de teuf, hein, des soirées débridées. Ah ouais. Est-ce que ensuite vous avez profité d'être sur place pour enchaîner sur une vraie fête?
Non.
Oh, quel sérieux.
Non,
oh, vous me descendez.
Enfin, on a fait une grosse stuff à Paris après.
Oui, on a fait des fêtes, mais on était quand même, on terminait les journées bien bien rincées. Ah ouais. Et puis avec le sentiment du devoir accompli, donc on n'avait pas forcément envie de prolonger la nuit plus que ça. Ouais. Mais on en a fait quelques-unes, pas plus de 10.
Pas plus de 10 par semaine.
Quand vous verrez le film, c'est très fourni en...
En
conneries. Non. C'est très fourni. Non. En conneries, en blagues, en gags. Donc, là, il faut beaucoup de boulot, quoi.
Ouais.
Il faut vraiment travailler.
Non, mais
travailler.
Ça sent. Ça sent vraiment.
Un mot, Arnaud, de votre futur one-man show. Je sais que c'est dans les tuyaux. Ça sera quand exactement? On a une date?
Alors, je démarre mi-octobre à Rouen, dans ma ville. Je démarre mi-octobre à Rouen. Et ensuite, après, dans toute la France. Mais je travaille avec Tom Villa, d'ailleurs, qu'on a écouté tout à l'heure, qui est mon co-auteur, que j'embrasse, qui est superbe. Et
t'en es où au niveau de l'écriture?
Là, j'ai le titre.
C'est bien.
Non, on est
je
déjà.
À la vitesse d'écriture de Tom Villa.
On va démarrer avec une heure de spectacle que je vais tester. Et on est à 45 minutes, là. Et je démarre mi-octobre. Et je suis très content. Donc voilà, c'est juste très stressé.
Est-ce que vous allez inviter Mickaël pour qu'il vienne vous faire un retour?
Non, absolument pas. Parce que si je vais venir Mickaël, il va vouloir montrer son cul. Je ne veux pas. J'en ai marre.
Je veux qu'il paye sa place.
Non, bien sûr. J'espère que les copains viendront. Hein.
Mais quand vous dites que vous commencez avec une heure, c'est qu'après, vous rajoutez au fur et à mesure.
En fait, plus quand tu joues sur scène, souvent, tu trouves des idées, tu les entends. t'en enlèves qui sont pas bonnes. Et t'en trouves, j'espère, d'autres meilleures. Et donc, on arrive à. Moi, pour moi, un spectacle, c'est 1h45 grand maximum.
Ah oui, c'est, oui, que c'est les gens déjà sortent, énorme. Ouais.
Ouais, mais je veux dire, c'est tout n'est qu'une question de rythme. C'est-à-dire que si on peut faire 2h et s'éclater, et 1h et se faire chier.
Puis ouais. Arnaud, en 1h, dit beaucoup plus de mots que n'importe quel autre moment. Dans Divorce Club, il y a un moment, il a été flashé à plus de 120 mots par minute. Et c'est, il parle très très vite. Hein. Ouais. Il y a des moments, c'est extrêmement limite. On dirait presque une autre langue.
D'ailleurs, des fois, je parle anglais à des mecs. Je me rappelle, une fois, j'ai parlé anglais à un mec. Il m'a dit, je comprends pas l'italien.
Il n'y a pas une petite animation qui est prévue là pour le film dans quelques jours.
Ça, merci de nous lancer là-dessus. Oui. Ouais. Le 13 au soir et le 14 dans la journée, on a loué un bus pour faire la fête. On va mettre qui va être floqué aux couleurs de Divorce Club. On va mettre du son avec du pâté de campagne et on va faire la tournée avec toute l'équipe de tous les cinémas Paris Périph pour aller fêter la sortie du film. Voilà.
C'est sympa.
Et voilà. Pâté de campagne et j'imagine qu'il n'y aura pas de la ceinture avec pour accompagner.
Non, il y a un peu de Pouligny Montrachier.
On est
avec François-Xavier
oui,
de
voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, donc,
on est sur le produit, on est sur le terroir.
Moi, j'aurais voulu vous lancer sur autre chose, parce que j'ai vu sur Instagram, mais comme je suis vraiment nul en nouvelles technologies, je ne comprends pas ce que c'est. Donc, vous pouvez m'expliquer. Vous m'expliquez, Michael Youn, vous qui êtes jeune.
Là, vous êtes dur. Alors, ce vendredi, ouais. Au Bourget, on va faire un concert qui sera un Silence Pop-Up Drive.
Alors, Silence Pop-Up Drive.
Alors, en fait, Drive, parce que les gens viennent en voiture pour les mesures de sanitaire. Donc, c'est comme un drive-in, sauf que c'est un concert, mais comme la mairie du Bourget et l'aéroport du Bourget ne voulaient pas de nuisances sonores, donc on fait un concert et il est retransmis dans des casques audio en Bluetooth sur la tête des gens.
C'est donc, très drôle, moi j'ai fait une fois, c'est très drôle.
Donc il y aura Joe Star, il y aura Cut Killer, il y aura Quentin Moziman, Megali et Fatal Bazooka.
Parce que t'enlèves le casque et donc évidemment et plus personne, il n'y a pas de bruit, et t'entends lui avec une bouteille de rhum,
le Silence Pop-Up Drive, l'événement le plus compliqué de ces dernières années, mais qui va être super. C'est vendredi 3 juillet au Bourget.
Il y a des nanas en roller qui passeront vous distribuer des, je sais plus,
du gel et des préservatifs. Du gel hydroalcoolique.
Pour que la soirée se termine bien, effectivement. Oui, ne confondons pas le gel hydroalcoolique et un autre jet.
Oui, parce que ça pique. Hein. Moi, j'ai déjà essayé, ça picote.
Europe 1. Lui aussi, avant de se ranger des voitures, il a connu la vie débridée de célibataire. Une vie qui, mine de rien, nécessite une grande rigueur, notamment au niveau de l'hygiène intime, car il faut toujours être prêt. Lui, il l'était.
Ustensiles toujours impeccables, lavés, plan de travail très prêt.
Olivier Pouls, notre expert gastronomique, arrive avec quelques recettes futées et équilibrées pour sculpter votre summer body. Délice in extremis, c'est juste après Crystal Murray, Princess sur Europe.
Ah, on adore.
Princess, c'était Crystal Murray sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Michael Youn et Arnaud Ducret sont nos équipiers sauvages cet après-midi pour la sortie prochaine, toute prochaine, le 14 juillet de Divorce Club. Arnaud, dans votre bio, il est noté que vous avez fait du gospel. Oui. Est-ce que c'est une petite vanne ou est-ce que avez vraiment fait du gospel?
Quand j'étais jeune, j'ai appris un peu à chanter, tout ça, voilà. Et donc on faisait des mariages, comme je vous disais tout à l'heure, avec des bagarres à la fin. Des mariages. On a fait un mariage aussi, on s'est trompé, il y avait deux villes qui avaient le même nom. Écoute-moi bien, qu'on s'est planté, mais voilà, erreur, en Normandie, il y a une autre ville qui était, Ivry-sur-Or, Ivry-sur-Mer, une connerie comme ça, tu vois. Et là, tu fais. Et voilà, et en fait, on vous attend.
Quelle horreur.
On est arrivé en retard et on a fait le vin d'honneur, quoi. Donc le vin d'honneur, évidemment, la mariée n'avait plus. On sait à quel point un mariage, c'est dur, c'est le grand jour. Et je me souviens, on avait hurlé. On a vu aussi des malaises aussi, c'était très drôle ça. Deux jours, t'avais la petite dame qui était là dans l'église pour remettre un peu les bougies. Et puis tu la vois arriver, et puis tout d'un coup elle fait un malaise. Tout tombe. Mais évidemment, les mariés veulent paniquer le moment, tu vois. Donc ils sont là. Oui, c'est vrai qu'elle est partie en train de faire des spasmes. Et le curé qui est là, vous aimez, et vous allez vous unir. Elle est en train de se faire dessus, la dame.
De belles histoires avec Arnaud Ducret, de beaux souvenirs.
Vous devez faire True Story, là, ça vous ira bien.
Arnaud, on l'a dit, vous chantez très bien, parce que vous faites semblant de chanter faux quand il le faut, quand vous êtes acteur, mais vous chantez très bien. Est-ce qu'un duo avec Fatal Bazooka serait possible?
J'aimerais bien.
Ça serait intéressant. Vous, à la Human Beatbox.
On l'a fait même, c'est ça, pendant la tournée.
Vous l'avez fait?
Ouais, gros. C'est Fatal Bazooka sur Europe 1. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars. Écoute ça, représente le hard. parcours des montagnes en direct de la Savoie. Savoie ou bien? Mec, c'est le pôle Nord, on gèle les grelots. Bordel, il fait plus froid que dans ton frigo. Un pied dehors, direct, ça pharyngite. La morbonnelle, les microbes qui s'agitent. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant qu'il sera tout dur, comme un sûr, je l'ai plus gars. On n'est pas venu pour jouer les papapoules. Mec, on sait, mon gars, foutez quelque chose, foutez quelque cool. Foutez quelque cool. On t'aura pas, t'aura les gars, t'aura les poules. Foutez quelque cool, ouais. Foutez quelque cool. Le chef de Pologne qui cool, foutez quelque cool. Foutez quelque cool, ouais. Foutez quelque cool. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, même un peu de soul. Foutez quelque cool, ouais. Foutez quelque cool. Ça fout qu'un boule. Ça fout qu'un boule.
On va changer le. Mais... Attendez.
Mais il y a comment... beaucoup de Covid mais maintenant sur la planète Earth.
Comment c'est possible, excusez-moi, de vous souvenir de toutes ces paroles aussi bien
je... Mais ça fait quand même 20 piges que je la chante.
Mais hein. Vous la chantez tous les combien
tous les jours. J'ai continué à faire des concerts, des galas, etc.
Tout le temps, ça continue.
Mais ouais, bien sûr.
Waouh, parce que.
Mais vous l'avez déjà fait ensemble, ça?
Ouais, on l'avait déjà fait ensemble.
Oh, mais attendez ce qui te regarde.
Est-ce que nous, on te demande si tu mets des slips ou des strings?
J'ai la réponse. Bon, Mickaël Youn, un comédien qui se met à rapper, ça donne Fatal Bazooka. Mais savez-vous ce qui se passe lorsqu'un chroniqueur gastronomique se met à rapper?
Oh
eh bien, ça donne Snoop Doggy Bag.
Eva, t'es mon confidois. Quand je te vois, je te proufferai bien la soca. T'es une geisha au nougat, vanille et chocolat. Shakira de la brouquette.
Bonjour Olivier Poulx.
C'est honteux, c'est honteux. C'est limite hashtag. Hein. C'est, alors là, il pourrait y avoir hashtag MeToo là-dessus.
Avant, c'était avant. Ah non, c'était après MeToo en plus. Ah, bravo Olivier Poulx. Vous êtes un chroniqueur gastronomique, Snoop Doggy Bag. Et vous nous proposez cette semaine, Olivier, des recettes un petit peu légères pour nous préparer à la plage.
De veau.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Olivier?
Salut les amis, yo Fatal. On se retrouve quand tu veux. Et en attendant, mais sans la râper, je vais vous proposer une salade César parce que je ne clôture jamais une saison sans faire une salade César.
Allez, César.
C'est franchement l'un de mes plats préférés.
C'est un escroc, ce chroniqueur. Une salade César. En chronique culinaire, tu vas... salade César.
Attends, parce que
un œuf au plat avec du bacon.
Parce que normalement, t'as l'histoire de la salade César.
Non, bah non.
Ah non, non, parce que là, il n'a pas le temps.
Bah oui.
Il va aller que sur... Bah alors, on va prendre de l'iceberg, du poulet, de la sauce avec du parmesan et de l'ail. Et puis vous l'achetez d'ailleurs, allez l'acheter en supermarché. Il y a la Newman qui est très bonne.
Olivier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est bon?
Bah écoutez, non, je pense que c'est bon, hein, finalement. Je vous envoie quand même ma facture pour la prestation. Et puis, je vais aller couper un peu de salade romaine. Je vais aller faire griller un petit morceau de poulet.
La sauce, je la
fais quand même moi-même. Hein.
Ah bah ouais, non, mais allez-y. Alors,
vous avez un petit conseil de pro quand même pour qu'elle soit différente, cette salade César?
Bah d'abord, c'est la sauce. Il l'a dit, on peut l'acheter, mais on peut surtout la faire soi-même. Et le secret, c'est la sauce. Alors moi, je vous donne mon secret de sauce. Et comme ça, Mickaël peut prendre note. Et la prochaine fois, bah plutôt que sortir une sauce industrielle de son frigo, il pourra briller en disant qu'il l'a constituée lui-même. Alors vous allez prendre un œuf mollet. Œuf mollet, c'est 5 minutes, entre 5 et 6 minutes de cuisson. 4 filets d'anchois, 2-3 cuillères à soupe de parmesan, un demi jus de citron, du sel, du poivre. Vous mettez ça dans un blender et vous montez à l'huile d'olive. Ça prend à peu près 3 minutes. Et là, vous avez une vraie sauce de salade César qui se tient.
Vous mettez pas d'ail dans la sauce?
Ah non, moi, je mets pas d'ail.
Mais moi, j'en mets.
Alors, si vous voulez en rajouter, libre à vous. Mais moi, j'en mets pas. Alors, en revanche, ce que je mets, c'est de la salade romaine. C'est du cœur de salade romaine. De la volaille qu'on va évidemment griller et qu'on peut servir froide ou tiède. Moi, je rajoute quelques langoustines parce que ça fait un petit air assez sympa.
Moi, je rajoute du caviar et puis je vous emmerde, bande de pauvres.
Enfin, n'exagérons pas. Quelques croûtons de pain, du parmesan, des anchois. Et puis j'invite Fatal Bazooka à aller déguster, allez.
Merci Olivier. Snoop Dogg, votre recette est disponible sur le site d'Europe 1 en podcast et on vous retrouve évidemment dans la table des bons
vivants. Comment on l'a agressé sur les langoustines? Puis je rajoute quelques langoustines, tout le monde dans le studio va faire « Ah bah voilà !» Eh bah ouais, carrément, faisons n'importe quoi.
Tout le monde, mais surtout toi.
Europe 1.
Sueur froide, rythme cardiaque qui s'accélère, gorge qui se serre, sphincter qui se... Bref, nos prétendants au titre de chroniqueur du jour sont tendus comme des tangas un 15 août au Cap d'Agde. Un seul repartira avec la précieuse couronne que voici. Eva elle-même est très excitée à mesure qu'approche le moment fatidique. Heureusement, Mickaël Youn lui tient la main.
Tu peux crier sans problème, les voisins ont l'habitude avec moi.
A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage se termine, c'est la force de cette émission. C'est les amis, c'est comme ça, les meilleures choses ont une fin.
C'est pas vrai. Ça va continuer l'année prochaine.
Vous verrez, ça va être différent.
J'espère.
Ça va être très différent.
Ça s'appelle encore comme ça ?
Peut-être pas, peut-être que oui, mais peut-être pas. Et peut-être que vous serez invité ou peut-être pas. C'est la force de cette émission en tout cas. Et ma fierté personnelle que d'avoir su faire rimer esprit compétitif et fair play, dépassement de soi et bonne humeur, comme nous le prouvent chaque jour nos journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Compétition qui n'a jamais altéré les rapports entre collègues au sein de la rédaction.
Faut vous calmer, hein, les consanguins là.
Attends ton tour, toi, j'arrive.
Mais descends, connard, ce soir, je vais te reprendre, moi.
Bref, c'est l'heure du qui tout double. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous méritez la victoire aujourd'hui. Anis Mbida, pourquoi voter pour vous ?
Parce que j'ai plombé l'ambiance et j'essaie de faire croire que l'intelligence artificielle pouvait remplacer les artistes, mais quand même, on est d'accord.
Hein. On va péter la gueule à la sortie, quoi.
J'allais dire qu'il y a un truc que l'intelligence artificielle ne sait pas faire, c'est remplacer le saltimbanque.
Oh, voilà, ah, combien de petites flagorneries, c'est bien joué.
Vous avez fait un ordinateur qui chantait.
C'est vrai, c'est vrai. Benjamin Peter, pourquoi voter pour vous et votre belge fou qui monte le Tourmalet en ballon sauteur ?
Parce que cette chronique, elle était faite pour cette émission. Hein. C'est la maison oui, témoin de l'équipe est sauvage. De l'info, de la rigueur, bien sûr. Un défi, de l'émotion, de l'absurde.
Bien sûr.
Des massages, bien des sûr. Montagnes et même l'accent belge. Il manquait juste un extrait de Papy fait de la résistance.
C'est vrai, on pourra rajouter au montage. Emmanuel Duteil, pourquoi voter pour vous et cette chronique sérieuse sur
l'oreille ? Parce que dans une émission tellement testéronée, on a beaucoup oublié les filles. Je suis allé quand même chercher les clientes en Asie pour qui L'Oréal s'adresse.
C'est pas le premier public auquel j'aurais pensé, mais pourquoi pas, oui. Bien
non,
joué.
Non, plus sérieusement, parce que c'est quand même un des thèmes majeurs, et comme le rappelait derrière Michael Youn, ça touche tous les secteurs, et y compris le cinéma, pour mettre en avant la diversité, la lutte contre le racisme et ce genre de choses.
Axel de Tarlé, pourquoi méritez-vous de l'emporter aujourd'hui ?
Alors, c'était une petite histoire de rien du tout sur un escroc qui a quand même réussi à faire croire qu'il avait révolutionné le monde de la finance et entré dans le sein des saints de la bourse allemande.
Ah, ich bin !
Mais c'est aussi une...
Les deux mots qui
sont en allemand. Ich bin,
mais il peut faire une émission sur deux mots.
Il y a un peu aussi de ce que les Allemands appellent la Schadenfreude dans cette histoire.
C'est une pizza.
C'est la joie malveillante. C'est ce plaisir non dissimulé qu'on a quand on voit que les autres, eux aussi, peuvent merder et rater des trucs.
Oh, ça me parle, ça. Alors, Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
C'est pour Emmanuel Duteil, les deux points. Super.
Emmanuel Duteil, qui est content comme un enfant.
Bah oui, j'ai tellement pas beaucoup de points.
À l'approche des vacances. Pour ma part, je donne mon point aujourd'hui. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je crois que je vais le donner à Axel de Tarlé.
Eh ben figurez-vous, voilà, c'est mérité.
J'aime bien ces histoires qui nous emmènent en Allemagne. J'aime bien ces histoires d'arnaque.
La Schadenfreude.
Vous m'avez appris cette expression que je pourrais replacer dans un dîner. Mais ici, de toute façon, mon avis compte peu. Ce sont nos invités qui tranchent in fine. Michael Youn, Arnaud Ducret, à qui allez-vous donner vos points?
Ah, vous avez chacun 3 points.
On a chacun 3 points.
Ouais.
Alors, je vais donner mes 3 points à notre camarade de Toulouse, Benjamin Peter.
Voilà.
Merci beaucoup.
3 points pour Benjamin Peter. Hein,
moi, j'ai donné mes 3 points à monsieur Anis Mbida. Pourquoi ? Parce que même si sa chronique, je ne l'ai pas du tout appréciée. Donc, tu vas prendre très cher en sortant, bonhomme. Il a vraiment le physique d'un acteur américain, de série américaine.
Ouais.
Je le vois très bien arriver à côté d'un corps et ils disent, a priori, on a trouvé des traces de sperme à côté des corps.
Donc, pour ça, mec, j'ai décidé de tenir.
Oh, alors, qui remporte l'équipe sauvage parce que c'est trop compliqué pour moi.
C'est Benjamin et Anis Mbida.
C'est Benjamin Peter, Anis Mbida. Vous remportez tous les deux la 201e journée de l'équipe sauvage. On remercie chaudement nos invités Michael Youn et Arnaud Ducret. On rappelle la date. Le 14 juillet, c'était celle de la prise de la Bastille pour les
2020,
générations à venir.
2020,
ça sera surtout
2020.
La date de la sortie de Divers Club, le film qui a fait mieux que La Grande Vadrouille et les Ch'tis. Je le prophétise. Je remercie mes équipiers du jour, Ebarok, Benjamin Peter, Emmanuel Duteil, Anis Mbida, Axel de Tarlé et Olivier Poult. L'équipe est sauvage revient demain 16h tout de suite. Restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à votre équipe est sauvage. Demain dès 16h, nous serons au rendez-vous. Très belle soirée à vous.